Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
S'ils reconnaissaient lui avoir porté des coups, ils avaient agi principalement sous l'effet de la peur ressentie dans le sas.
Ils ont paniqué, c'est ainsi que les quatre policiers expliquent la pluie de coups infligés à un producteur de musique. Tous sont mis en examen, deux ont été écroués cette nuit. Enfin de l'air, nous avons tous retrouvé un peu de liberté ce week-end, celle de retourner dans les magasins, de refaire du sport, en plein air, à plus d'un kilomètre de chez soi. Premières impressions à Bordeaux, Marseille et Paris. Pas plus de 30 personnes lors des célébrations dans les églises, mesure retoquée par le Conseil d'État, certains catholiques s'en félicitent.
Nous autres cathos, on nous dit on vous tape dessus, vous tendrez l'autre joue. Eh ben non, c'est pas forcément un bon principe, vous voyez.
Dans ce journal, nous ouvrirons un dossier sur ces centaines de milliers de femmes qui ont manifesté ce week-end pour défendre l'avortement, notamment en Pologne. Et puis ça restera l'image la plus incroyable du week-end. Le pilote de Formule 1 Romain Grosjean qui sort indemne de sa voiture en feu, coupé en deux. Il peut dire merci au système de sécurité qui équipe les monoplaces.
Juste après ce journal, ce sont vraiment d'autres voitures dont on va parler. Pas besoin de choisir entre le thermique et l'électrique. Les voitures hybrides rechargeables, on le vend en poupe. L'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet, le retour de la légende Mike Tyson sur un ring à 54 ans. Mais pourquoi faire l'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Deux policiers dorment en prison cette nuit, un brigadier et un gardien de la paix impliqués dans le déchaînement de violence contre le producteur de musique Michel Zecler. Deux autres, eux aussi mis en examen, restent libres sous contrôle judiciaire, dont celui qui avait lancé une grenade lacrymogène dans le studio de musique.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Pendant leurs auditions en garde à vue, ils ont expliqué leurs actes par un sentiment, la peur.
Oui, les trois policiers ont affirmé en garde à vue qu'ils avaient paniqué dans le local exigu dont ils n'arrivaient pas à s'extraire et qu'ils avaient eu du mal à maîtriser Michel Zecler. Ils ont aussi réfuté les autres chefs d'accusation, comme l'a détaillé hier le procureur de Paris, Rémy Hetz.
S'ils reconnaissaient lui avoir porté des coups, ils expliquaient ceci par l'attitude de ce dernier et les circonstances de l'interpellation. Ils contestaient avoir tenu les propos racistes dénoncés par la victime et corroborés par le témoignage d'un des jeunes présents derrière la porte du SAS. Il réfutait le caractère mensonger du procès-verbal d'interpellation. Il finissait cependant par admettre que les coups portés n'étaient pas justifiés et qu'ils avaient agi principalement sous l'effet de la peur ressentie dans le sas.
Des coups disproportionnés, c'est en effet plus proche de ce que montrent les images de la vidéo. La scène des violences, à proprement parler, dure 6 minutes et malgré les bons états de service des policiers soulignés par le parquet, ce dernier a surtout insisté sur le trouble exceptionnel à l'ordre public et sur la gravité des faits.
Chloé Triomphe, aujourd'hui Gérald Darmanin doit être entendu par la commission des lois de l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur reviendra à la fois sur le maintien de l'ordre en général et sur la loi de sécurité globale contestée dans les rues samedi un peu partout en France. 80 policiers et gendarmes ont été blessés, 81 personnes arrêtées.
C'est un petit vent de liberté qui a soufflé sur notre pays ce week-end. On a pu s'éloigner jusqu'à 20 km et pendant 3 heures.
Stéphane Place, vous êtes en direct de Bordeaux. En Gironde, les golfeurs s'en sont donnés à cœur joie.
Oh, doux euphémisme au regard des conditions météo. Ici en Gironde, les golfeurs ont profité tout le week-end de fairways baignant dans une douce lumière automnale. 16 degrés en début d'après-midi, la joue caressée par le soleil, l'œil sur le drapeau. Un coup de fer neuf pour coller la balle sur le green. Le bonheur retrouvé pour ces deux adeptes de la petite balle blanche. Deux golfeurs que j'ai rencontré au golfe de Villeneuve-d'Ornon.
Alors, je suis à 19 km 200 du domicile. Ah ben, j'ai interrogé le GPS. Alors, le premier plaisir, c'est de retrouver les amis sur le parcours et en fait, le plaisir de retrouver du vert.
Beau temps, une sensation de liberté. On n'a plus ces contraintes d'une heure pour se déplacer, donc c'est hyper agréable. C'est une passion avant tout. Le bienfait, c'est surtout à la tête.
Et voilà, et ça claque, précaution sanitaire oblige, on n'enlève pas, donc on ne touche pas les drapeaux sur les greens par exemple. Et comme on a 3 heures, on ne joue pas 18 mais 9 trous au maximum.
Direction Marseille, avec vous Stéphane Frangy, il ne faisait peut-être pas assez chaud pour bronzer, mais il y avait du monde de retour sur les plages.
Mais bien sûr, pourquoi s'en priver quand le soleil est de la partie en plus et puis y être allé, autant se jeter à l'eau, mais en douceur car elle reste assez fraîche.
Ouais, moi j'ai nagé. Elle est froide.
Elle est pas chaude. J'ai l'impression qu'elle faisait 8 degrés. Voilà, et on a pris le petit café sur la plage avant de se baigner. En plus, avec la douceur du climat, vraiment c'est très agréable et ça fait du bien.
Ça vous avait manqué ?
Oui, beaucoup. Parce qu'on était à 1,5 km de la plage, donc on n'est jamais allé en fait. On a vraiment respecté scrupuleusement les consignes.
Voilà Christelle et sa fille Marine qui n'étaient pas les seules à vouloir marquer le coup de la sorte, même si la plupart se contentaient de marcher tranquillement en l'eau, au niveau des cuisses pas plus, ce qui est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal en effet. La plage, l'air pur, c'est bien. Les magasins, ce n'est pas mal non plus. Après 4 semaines de fermeture, les Franciliens ont pu commencer leurs emplettes de Noël, autrement que sur Internet, pour de vrai, Pierre Herbulot.
Oui, et ça aussi, ça fait du bien. Il y avait ce petit truc en plus dans l'air, comme un goût de fête de fin d'année avant l'heure, entre les illuminations à la nuit tombée, les passants, les bras chargés de sacs et surtout le sourire sur leur visage, comme celui communicatif de Charlène, heureuse de voir les commerces rouvrir pour faire ses courses de Noël.
Franchement, ça fait très 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 plaisir. On a envie d'acheter des cadeaux, de faire... De se promener, donc vraiment ça fait vraiment du bien. Moi je suis trop contente, voilà.
Et Charlène était loin d'être seule. Le centre commercial de La Défense, par exemple, l'un des plus grands d'Europe, a accueilli presque autant de public que l'an dernier à la même période. Alors avec le protocole sanitaire, ça fait quelques files d'attente, notamment devant les magasins de jouets et les vendeurs de sapins. Mais au moins, c'est ouvert.
Merci à tous les trois. Pierre Herbulot à Paris, Stéphane Place à Bordeaux et Stéphane Frangy à Marseille. Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie, affirme que le week-end a été bon dans les commerces. A priori, ce sont les grandes villes qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu. Les détails dans le journal de 8h.
7h06 sur Europe 1. Ce week-end, les églises ont pu reprendre leurs célébrations religieuses, mais avec 30 personnes maximum, quelle que soit la capacité d'accueil de l'édifice.
Mesure que l'Église catholique trouvait disproportionnée, discriminatoire. Message reçu par le Conseil d'État qui ordonne au gouvernement de faire marche arrière dans les 3 jours. Et pourtant, dès ce week-end, certaines paroisses sont passées outre la jauge des 30 personnes, comme hier à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris où s'est rendu Nicolas Feldman.
À l'entrée de l'édifice, derrière une grande porte en bois, des bénévoles placent les fidèles, distribuent du gel hydroalcoolique. Mais ici, pas de jauge de 30 personnes. La limite est fixée à 30% des capacités de l'église. Ils sont donc une centaine à l'office. Marguerite s'y sent néanmoins en sécurité.
C'est tout à fait raisonnable. Il y a un rang sur deux déjà qui est neutralisé. Et le rang qui est en principe opérationnel, c'est une place sur 6. En fait, on est revenu à la disposition des lieux au déconfinement, c'est-à-dire au mois de mai. Nous autres, cathos, on nous dit on vous tape dessus, vous tendrez l'autre joue. Eh ben non, c'est pas forcément un bon principe, vous voyez.
Jean-Pierre Chaussade, le diacre du diocèse de Paris, n'irait pas jusqu'à réécrire un passage de l'Évangile. Il réclame simplement l'équité.
On a le souci de la santé des Français. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir les mêmes règles que tout le monde. Dans les magasins, pour moi, c'est une question de justice.
Les fidèles seront fixés dans quelques jours. Le nouveau protocole sanitaire doit être présenté d'ici mercredi.
Nicolas Feldman.
On a beaucoup parlé depuis le début de la crise sanitaire de toutes ces professions en première ligne, les personnels de santé, les petites mains. Pourtant, d'autres ont aussi travaillé davantage, mais sans qu'on le sache vraiment. Les cadres.
Oui, c'est ce que montre un sondage Via Voice qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Vous le détaillez pour nous, Olivier Samin. 6 cadres sur 10 considèrent que leur charge de travail s'est alourdie.
Ils ont souvent été en première ligne dans les entreprises pour réorganiser le travail quand la crise sanitaire a surgi, en particulier au moment du premier confinement, quand il a fallu agir en urgence et mettre au point un fonctionnement nouveau et pas forcément testé. La conséquence apparaît clairement dans l'enquête Via Voice publiée ce matin. 61% des cadres considèrent que leur charge de travail a augmenté cette année par rapport à l'année dernière, avec, pour un grand nombre d'entre eux, 4 sur 10, des horaires qui ont dépassé 45 heures par semaine. Ils sont même 6 sur 10 à reconnaître qu'ils ont dû travailler pendant leurs jours de repos. Et la reconnaissance salariale n'a pas suivi, disent 61% des cadres. Un sentiment en hausse de 6 points par rapport à l'année dernière. Sentiment plus marqué chez les femmes que chez les hommes, plus marqué aussi dans la fonction publique que dans le secteur privé. L'autre gros enseignement de cette enquête, c'est le fait que les cadres sont de plus en plus nombreux à avoir le moral en berne. 69% pensent que leur évolution professionnelle sera nulle, voire négative, dans les années qui viennent. C'est 4 points de plus que l'an dernier.
Olivier Samin.
Il y a 45 ans, l'avortement était légal. légalisé en France. Un combat porté par Simone Veil, vous le savez. Aujourd'hui, en 2020, ce droit est loin d'être un acquis dans de très nombreux pays, en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis. Dossier qu'on ouvre ce matin avec vous, Pauline Jacquot. Bonjour.
Bonjour.
En Argentine, où le sujet divise profondément le pays, le combat avance. Les débats sur la légalisation de l'IVG s'ouvrent cette semaine au Congrès.
Oui, aujourd'hui, le droit à l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol ou de danger pour la santé de la femme. Le projet de loi porté par le président au pouvoir est totalement inédit en Argentine. C'est un élément déterminant pour la victoire, selon la militante Céleste MacDougall, au micro de notre correspondante à Buenos Aires, Audevillier-Moriami.
C'est très émouvant qu'un président se déclare pour la première fois en faveur de la légalisation de l'avortement et qu'il présente un projet de loi en ce sens. C'est une vraie avancée qui a lieu grâce au combat que l'on a mené avec la campagne pour le droit à l'avortement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le pouvoir législatif réponde à cette demande de la société. Le pouvoir exécutif l'a fait maintenant, c'est au tour du Congrès.
Autre continent, autre pays, la Pologne, où l'on s'est encore mobilisé ce week-end contre le fait d'interdire l'IVG en cas de malformation du fœtus. Aujourd'hui en Pologne, une femme peut avorter en cas de viol, de danger pour sa santé et de cette troisième option, la malformation du fœtus. C'est 98% des IVG. Option est déclarée illégale par le tribunal constitutionnel, ce qui a jeté des milliers de personnes dans la rue depuis plus d'un mois, comme Magdalena.
Beaucoup de petites villes, villages, aussi dans les campagnes, il y avait des manifestations, il y avait des filles, et pas seulement les filles, des gens qui ont commencé à manifester contre ce gouvernement. L'avortement en Pologne a devenu le symbole de la liberté.
À ce stade, la décision du tribunal n'est toujours pas appliquée dans le pays.
Autre combat, autre continent, Pauline, les États-Unis où les anti-avortements ont gagné du terrain sous la présidence de Donald Trump.
Oui, les lois se sont durcies dans plusieurs États du Sud et la nomination de la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême pourrait remettre en cause le droit à l'avortement. Si tel était le cas, Joe Biden a déjà annoncé vouloir promulguer une loi fédérale.
Et pendant ce temps-là, en France notamment, la pandémie a fragilisé le droit à l'avortement.
Oui, parce que les femmes ont eu du mal à obtenir des rendez-vous, pas assez de médecins, trop d'attentes. Même chose, même situation en Italie, en Allemagne, il y a eu beaucoup de femmes qui ont dépassé les délais légaux. Une initiative a été prise au Royaume-Uni. Le gouvernement a décidé d'autoriser les rendez-vous par téléphone et d'envoyer par la poste des pilules abortives.
Un dossier signé Pauline Jacquot. Merci. Et sachez qu'aux États-Unis, Joe Biden vient d'annoncer la composition de son équipe de communication à la Maison-Blanche. Elle est 100% féminine, une première dans le pays.
Le pilote de Formule 1, Romain Grosjean, est un miraculé. Et le mot n'est pas trop fort. Hier, lors du Grand Prix de Bahreïn, sa monoplace s'est embrasé après avoir heurté le rail de sécurité à 220 km/h.
Et après 28 secondes d'angoisse, il est sorti de la voiture sain et sauf. Il ne souffre que de légères brûlures aux mains. Depuis son lit d'hôpital, il a remercié le halo, cet arceau qui protège la tête des pilotes et lui a sans doute sauvé la vie.
Je n'étais pas favorable à l'arceau de sécurité il y a quelques années, mais je pense que c'est une grosse avancée pour la F1. Sinon, je ne serais pas en mesure de vous parler aujourd'hui.
Les mesures de sécurité ont en effet été très largement renforcées ces dernières années, Axel May.
Une voiture coupée en deux qui se transforme en boule de feu. L'image renvoie aux années terribles de la F1, époque Niki Lauda, où les accidents étaient souvent mortels. Mais notamment sous l'impulsion de son président, le français Jean Todt, la Fédération internationale de l'automobile a considérablement renforcé les règles de sécurité. Éric Boulier a dirigé Romain Grosjean sous les couleurs de Lotus. Il est l'actuel patron du Grand Prix de France et constate l'évolution de la sécurité sur les circuits.
Déjà, ça a commencé par cette fameuse cellule de survie qui a rempli pleinement son rôle aujourd'hui. C'est simplement un caisson en carbone en fait, qui a été conçu pour protéger le pilote en cas d'impact. Le pilote, lui, doit porter par réglementation ce que des vêtements en Omex. Donc c'est un matériau en fait qui protège contre le feu pendant quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes.
Il y a aussi l'arceau de sécurité peu esthétique mais efficace qui a été rajouté au-dessus de l'habitacle et qui a sans doute évité le pire hier à un autre pilote, le Canadien Lance Stroll, sorti sans dommage de sa F1 qui s'était pourtant retourné.
Axel May, un grand prix remporté par Lewis Hamilton.
Merci beaucoup Hélène Zellani, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous venez d'entendre ce vent de liberté retrouvé, premier week-end d'allègement du confinement. Reste donc la question de l'église, du culte, des messes. Le Conseil d'État ordonne au gouvernement de revoir la jauge à 30 personnes maximum. Les évêques proposent de remplir les églises à 30% de leur capacité. Il n'a pas pris la parole depuis que le Conseil d'État leur a donné raison. Monseigneur au petit archevêque de Paris, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré. À tout de suite.
Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le marché automobile est en pleine révolution. Pour la première fois, les ventes de voitures hybrides rechargeables sont en train de passer devant les voitures électriques.
Oui, alors les hybrides rechargeables pour les automobilistes qui l'adoptent, c'est a priori le meilleur des deux mondes. Un moteur électrique pour les trajets de tous les jours et un moteur thermique pour les plus longues distances. C'est l'assurance de ne pas rester en rade quand on part en vacances, c'est la tranquillité d'esprit. Et les automobilistes européens achètent. Les ventes ont triplé au premier semestre, à 420 000 unités, à peu près autant que les ventes de voitures 100% électriques. Sur le marché français, l'hybride rechargeable est en train de même dépasser l'électrique. L'hybride rechargeable ne représente encore qu'à peine 5% du marché européen, mais vous voyez, sa croissance est fulgurante.
Il faut bien comprendre, ce ne sont pas les hybrides tels qu'on les connaît, qui alternent entre l'électrique et le thermique. Là, il y a deux moteurs.
Exactement.
Il y a vraiment deux moteurs, un hybride, un électrique, un thermique. Et vous dites que ce ne sont pas forcément des modèles aussi écolos qu'on le dit ?
En fait, le secret, c'est qu'il faut savoir s'en servir, si je puis dire. Officiellement, ce sont des voitures qui émettent entre 30 et 50 grammes de CO2 km, ce qui est extrêmement faible. Seulement, pour arriver à ces performances, en gros, il faut recharger la batterie très régulièrement, tous les jours, ce que la plupart des gens ne font pas. Du coup, ils basculent sur le moteur thermique. Et là, les chiffres d'émissions de CO2, évidemment, s'envolent. Ils sont deux fois, quatre fois, voire huit fois supérieurs aux chiffres très bas annoncés par les constructeurs, d'où les critiques de certaines ONG à l'égard de ces véhicules. Mais bien utilisée, une voiture hybride rechargeable représente un progrès indéniable, à condition qu'elle ait été rechargée. La batterie permet d'assurer les trajets de tous les jours, qui sont en moyenne en France de 29 km, ce qui est quand même assez peu.
Assez bas, oui. Le succès de l'hybride, ça signifie aussi la fin du diesel ?
Alors, ce succès, ça s'explique d'abord par le fait que l'offre de modèles est de plus en plus large. Tous les constructeurs s'y ont mis. Sur le marché français, Peugeot avec le 3008 ou Renault avec le Captur remporte de vrais succès. Du coup, ces mêmes constructeurs ont tendance évidemment à ne plus développer de nouveaux moteurs diesel. Signe des temps, pour la première fois en Europe, les ventes de voitures électrifiées, c'est-à-dire électriques ou hybrides rechargeables, ont dépassé le diesel au mois de septembre. Le diesel représentait encore la moitié des ventes de voitures neuves en 2016. On est tombé à peine plus du quart aujourd'hui, et même si le diesel émet moins de CO2 que l'essence, eh bien il est à peu près certain que cette tendance déclinante ne va pas s'inverser.
Merci beaucoup, Nicolas Barret, 7h18. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Au nord du Nigeria, un massacre attribué à Boko Haram.
Oui, forcément, ça s'est passé dans l'état de Borno. C'est là que Boko Haram avait enlevé des lycéennes en 2014. Rappelez-vous, pendant longtemps, il y avait un panneau « Rendez-nous nos filles » sur la mairie de Paris qui réclamait leur libération. Il y en avait même trois sur le ministère de la Justice, mais en anglais, c'est plus chic. Et puis, il fallait que l'islamiste nigérian comprenne. Plus d'une centaine de filles n'ont jamais réapparu. Convertis de force, vendus comme esclaves, 12 dollars pièce, mariés à des membres du groupe, tués sous les bombardements de l'armée. D'autres ont été échangés et puis à Paris, on a enlevé discrètement les banderoles. Fin du concours mondial d'indignation. Depuis, on peine à s'intéresser à cette guerre obscure. Le Nigeria est pourtant le troisième pays au monde pour le nombre de victimes du terrorisme. 36 000 morts en 10 ans, 2 millions de civils en fuite, 1400 écoles détruites. Récemment, 22 paysans ont été égorgés dans leurs champs par Boko Haram. Pas un mot, pas une brève, aucune banderole à Paris.
Alors samedi après-midi, 110 ont été froidement assassinés.
Au moins 110 morts et beaucoup de blessés, des ouvriers agricoles qui travaillaient dans une rizière. Ça rappelle les champs de la mort au Cambodge. Régulièrement, Boko Haram ou ses rivaux de l'État islamique s'en prennent aux paysans. Parfois, ils sont accusés d'avoir renseigné l'armée ou de ne pas payer le racket. Mais il y a une raison plus profonde, la haine atavique des nomades, des éleveurs pour les agriculteurs sédentaires. C'est vieux comme les razzias. Le djihadisme se greffe sur cette base ethnique.
Et il y a aussi une clé politique.
Oui, parce que c'était hier l'élection des conseillers régionaux dans les 27 circonscriptions de l'État de Borno. On attendait ce scrutin depuis 2008. Il a été sans cesse reporté à cause du terrorisme. On sait que Boko Haram déteste les livres, les boucs, les bocaux sont haram, interdits. Boko Haram déteste aussi les élections parce qu'elles renforcent l'État. Elles donnent des droits à l'individu et le pouvoir à la majorité, donc aux ethnies qui étaient autrefois soumises par la force. Et même aux chrétiens, ce qui est encore plus insupportable.
Merci Vincent Hervouet, le regard international, tous les matins sur Europe 1. Il est 7h21 et à suivre le retour d'une légende de la boxe. Hier matin, Mike Tyson sur le ring. Mais pourquoi donc ? Virginie Fulpin, l'édito sport dans un instant.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport avec Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
The two-time heavyweight world champion, former undisputed, undefeated heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson.
Oui, vous l'avez
entendu.
C'est
pas moi de vous présenter comme ça.
Un peu d'ambiance hein, quand même. On est au Staples Center. Mike Tyson est remonté sur un ring hier matin. Mike Tyson, hein, 54 ans. Après 15 ans sans boxer, il a fait match nul contre Roy Jones Jr., un autre retraité. Et ce combat-exhibition a passionné les foules dans le monde entier. Pour vous, Virginie, c'est symptomatique hein, de notre refus de voir le passé s'effacer.
Mais qu'est-ce que recherche Mike Tyson en revenant comme ça? Et qu'est-ce qu'on recherche, nous, en regardant son combat un dimanche matin à 6h? Si on analyse les choses froidement, c'était quand même une simple exhibition, pas un championnat du monde. Hein. Une exhibition entre deux retraités qui ont dépassé la cinquantaine. Et le tout dans un Staples Center de Los Angeles complètement vide pour cause de Covid. Oui, mais que vaut une analyse froide quand il s'agit de Mike Tyson? Ben rien, peu importe le contexte, on veut le voir combattre parce qu'on refuse que nos idoles d'antan puissent s'éteindre. On en redemande toujours plus. Et le fait que ce combat ait eu lieu 4 jours seulement après la mort de Diego Maradona lui donne encore une autre dimension. On vient de voir disparaître une icône planétaire. Alors, on s'accroche aux autres désespérément, comme si Mike Tyson nous permettait de prendre conscience en temps réel de la chance qu'on a de le voir boxer. Les plus jeunes ont l'opportunité de le découvrir en direct et ils pourront le dire à leurs petits-enfants le moment venu. Et les moins jeunes goûtent le plaisir de replonger 30 ou 35 ans plus tôt, comme si on avait enfin découvert comment conjuguer le passé au présent. Ce combat d'hier avait un petit peu le goût d'une rediffusion dont on ne connaissait pas la fin. C'est pas comme si on regardait France-Allemagne 82, mais que les Bleus avaient une chance de sortir vainqueurs.
Ah oui, c'est loin d'être ridicule comme combat. C'était loin d'être ridicule en plus.
Bah oui, c'était un vrai combat de boxe. Il y avait forcément des craintes que ça ressemble pas à grand chose. On pouvait d'ailleurs être un peu mal à l'aise au départ, la peur d'assister à une parodie de combat, la crainte de voir la légende s'écorner. Et la désagréable impression de jouer les voyeurs. Mais non, ça a été plutôt animé, même si les deux boxeurs n'ont plus le rythme de leurs 20 ans. Mike Tyson n'a pas gagné, match nul contre Roy Jones, mais son retour est gagnant. Il a réussi à prouver à tout le monde qu'il n'était pas fini. Il ne combat plus comme à la fin des années 80, d'accord. Mais à 54 ans, il est apparu affûté comme jamais. Et nous, on dirait que ça nous rassure de le voir courir après sa jeunesse. Ça nous permet de revivre la nôtre, ce combat de retraité. En dit long, je pense, sur notre rapport collectif au temps qui passe et sur notre refus de vieillir et de voir vieillir les idoles. Je ne suis pas sûre que ce soit très rassurant, mais le retour de Mike Tyson a des airs de cure de jouvence.
Oui, parce que lui, il n'avait pas boxé depuis 15 ans. Allez, notre condition physique a un peu changé à nous en 15 ans. Lui, il était là, il était affûté, Mike Tyson. Alors, vous avez demandé, Virginie, qu'est-ce que recherche Mike Tyson en revenant comme ça? Peut-être un indice dans sa réponse, interview, justement. Ce que je fais sur ce ring, c'est un cadeau qui n'est pas seulement pour moi. Avant, il ne s'agissait que de moi, de jolies filles, de belles voitures, d'avions, de bateaux. Mais ça ne me convient plus, alors j'ai pris un autre chemin. Voilà le Mike Tyson de la maturité.
La sagesse.
Merci Virginie Fulpin. C'était l'édito sport sur Europe 1. Presque 7h26 et comme tous les matins, il est là. Il monte sur le ring, lui aussi, Stéphane Bern. Bonjour Stéphane, on va parler
d'histoire. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors parfois, de façon un peu comique, et pour exprimer un léger regret, on emploie l'expression « bah c'est ballot ».
Oui, c'est ballot, c'est dommage, c'est bête quoi.
Exactement, l'expression est récente en fait. Elle date de la première moitié du XXe siècle. Un ballot, c'est tout simplement un baluchon. Quelque chose qu'on emballe dans un ballot de paille, bref, on ne peut pas faire plus simple. D'ailleurs, c'est la signification première de la formule, c'est simple. Quand on dit d'une personne « c'est un ballot », c'est quelqu'un de simple, plutôt un benêt, un simple d'esprit. D'ailleurs, à une époque, on disait « au bout du quai les ballots ». Cela signifiait dans un train que les imbéciles étaient priés de voyager avec les marchandises, alors que les passagers d'importance étaient forcément placés à l'avant.
Au bout du quai les ballots.
Les ballots sont traités sans ménagement, vous le savez. Ils sont donc ballottés. Rien à voir avec le ballottage aux élections. Les ballottes étaient des petites boules au XVe siècle qui étaient utilisées pour voter. Au Moyen-Âge, on votait pour des personnes en utilisant des boules blanches et des boules noires. Ce qui a donné l'expression « être black-boulé », un mot tout sauf récent car Balzac l'utilisait déjà en 1835.
Balzac,
un
système de boules noires, 1835, disait oui, « black-boulé ».
Black-boulé. Un système de boules noires qui élimine, cela a donné également naissance beaucoup plus tard au jeu Motus, mais ça, c'est une autre histoire,
j'ai
Mathieu.
J'ai failli vous priver de votre chute sur le black-boulé. Je retiens, moi, au bout du quai les ballots, j'aime bien cette expression. Stéphane Bern, on vous retrouve à 16h avec Mathieu Noël.
Absolument. Aujourd'hui, on réunit trois personnages morts, comme ça ne vous a pas échappé, Mathieu,
mais souvent,
morts
souvent dans votre émission.
Dans l'émission, ils sont souvent morts. Mais attention, morts dans une chambre d'hôtel. Aujourd'hui, Mademoiselle Coco Chanel, qui est morte dans sa suite au Ritz, où elle a vécu 30 ans. Le poète Oscar Wilde, qui a fini la sienne dans un hôtel miteux à Paris. Et David Carradine, héros de Tarantino, retrouvé mort dans un hôtel à Bangkok, dans une position, vous le verrez, un peu équivoque. Mais on n'est pas là pour juger. Bref, on vous raconte l'histoire, sans préjugés, avec Mathieu Noël, tout à l'heure, de 16h à 18h sur Europe 1.
C'est historiquement vôtre, avec Stéphane Bern et Mathieu Noël, à 16h. Il est 7h28 et... quelque chose me dit qu'il l'utilise, cette expression, lui. C'est ballot. Je vous vois bien dire ça, Laurent Cabrol.
Un gros ballot, oui.
Ouais, c'est ballot.
C'est ballot. Ben, c'est ballot. Effectivement, c'est ballot. On l'emploie en météo parce que, franchement, souvent, on est quand même dans le doute. Et on a comme une impression de déjà-vu. Et c'est franchement ballot aujourd'hui parce que ça ressemble à l'hiver. Et l'hiver, il est là avec moins 8 à Châlons en Champagne, moins 7 à Colmar, moins 6 à Nancy, moins 5 à Strasbourg, 0 degré à Marseille, 1 à Paris, 3 à Lyon. Vous voyez que ce sont des températures vraiment hivernales. L'hiver officiel, l'hiver météorologique, c'est demain seulement. Mais enfin, là, on l'a déjà, le parfum est bel et bien là. Avec une vigilance orange de Météo France sur la Moselle, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Ardennes. Vigilance orange du haut verglas. Et ce soir, car la pluie va arriver par le nord, mais elle ne va pas aller bien loin. Elle va passer le long des côtes du nord de la France, de la frontière plus exactement. Il n'y a pas de côte, mais sur les frontières du nord. Et ensuite, nous aurons partout ailleurs un temps avec du brouillard et des brumes et du soleil sur Paris. Un petit peu de ciel gris, mais enfin, dans l'ensemble, le temps sera sec sur la capitale. Les températures maximales entre 5 et 15 degrés.
Oui, il fait frais. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Presque 7h30, un nouveau journal sur Europe 1.
C'est très injuste ce qu'on me reproche. Je suis fier de mon travail. On a fait tout ce qu'on pouvait pour Diego. On a vraiment fait du mieux qu'on a pu.
Y a-t-il eu des négligences dans le traitement de Diego Maradona? Son médecin est soupçonné d'homicide involontaire. Je n'ai rien à me reprocher, affirme-t-il, décrivant un patient parfois ingérable. L'ouverture du procès de l'incendie meurtrier de la rue Mira à Paris. 8 morts, dont 2 enfants. Pendant un an, le pyromane s'était fait passer pour une victime. Plus de 2000 nouveaux conseillers recrutés par Pôle emploi depuis septembre. C'est le dossier de la rédaction. Une lueur d'espoir alors que les chiffres du chômage explosent en pleine crise sanitaire. Et puis à quelques heures de l'annonce du prix Goncourt, direction la Normandie à la fin de ce journal, on vous emmène dans les coulisses des rotatives prêtes à tourner à plein régime pour imprimer les titres du futur vainqueur.
Juste après ce journal, les églises vont-elles pouvoir accueillir plus de fidèles? Le Conseil d'État arbitre en faveur des catholiques. Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, invité du tête-à-tête Europe Matin. Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, pris dans le jeu politique autour de la loi de sécurité globale, c'est l'édito politique de Nicolas Bétou. Juste avant, Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et nous partons en Argentine, d'abord où l'heure est aux interrogations. La mort de Diego Maradona aurait-elle pu être évitée? C'est la question que se posent ses filles 5 jours après son arrêt cardiaque. Aude Villiers-Moriamé, la justice a ouvert une enquête pour déterminer si le médecin de Maradona a fait preuve de négligence.
Oui, des perquisitions ont été menées au domicile et à la clinique privée de Leopoldo Luque. C'est le neurochirurgien qui avait opéré Maradona d'un hématome au cerveau début novembre et qui supervisait sa convalescence. Le médecin est visé par une enquête pour homicide involontaire. Dans une conférence de presse auprès des médias argentins hier, Leopoldo Luque s'est défendu de toute négligence.
Il voulait une vie qui était mauvaise pour lui. Je l'accompagnais du mieux que je pouvais. Je lui proposais de sortir, de faire un peu de foot. Il ne voulait pas. Ses parents lui manquaient beaucoup. C'était ça sa vie, il était très triste. Il se punissait d'une façon insupportable. C'est très injuste ce qu'on me reproche. Tout le monde a vu ce que j'ai fait pour lui. Je ne me reproche rien, je suis fier de mon travail. Je ne sais pas pourquoi il cherche un coupable. Moi, je n'en vois nulle part. On a fait tout ce qu'on pouvait pour Diego. On a vraiment fait du mieux qu'on a pu.
En larmes, Leopoldo Luque a déclaré que Maradona était pour lui un ami, qu'il l'aimait comme un père. Mais selon le médecin, c'était aussi un patient très difficile qui ne voulait parfois rien entendre. La justice va examiner les ordinateurs et documents saisis chez Leopoldo Luque et à son bureau. Pour l'heure, le neurochirurgien n'est pas mis en examen.
Aude Villiers-Moriamé, correspondante d'Europe 1 en Argentine. À la une ce matin, deux des policiers impliqués
impliqués dans le passage à tabac d'un producteur de musique à Paris viennent de passer la nuit en prison. Les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont tous les quatre été mis en examen.
C'est l'un des incendies criminels les plus meurtriers de ces dernières années à Paris. 8 morts, dont 2 enfants, c'était en 2015, aux 4 rue Mira.
Et le procès du principal suspect s'ouvre aujourd'hui. Il n'est autre qu'un ancien locataire de l'immeuble. Et pendant un an, Justin Morin, il s'est même fait passer pour une victime.
Oui, c'était certainement l'une des victimes les plus engagées dans l'après. Suivi de l'enquête, soutien auprès des survivants, il a même écrit à la brigade criminelle pour leur demander l'autorisation de créer un journal dans lequel les victimes pourraient témoigner. Cette suractivité, mêlée à des appels incessants au secours, ont paru suspects, mais il est interpellé seulement un an après les faits. En garde à vue, il avoue rapidement et confie avoir mis le feu à une poussette pour attirer l'attention des secours sur son mal-être. Evelyne, propriétaire aux 4 rue Mira, le connaissait. Elle se souvient en particulier d'une scène un an après l'incendie, alors qu'elle retournait dans sa cave chercher des affaires.
J'ai entendu du bruit dans le hall et c'était lui qui distribuait des feuilles avec l'incendie en photo pour une commémoration le lendemain. Et il a même demandé à la mairie de Paris de venir. Je trouve ça fou, mais je le pense assez pervers. Alors, c'est lui qui répondra de ça.
L'accusé a évoqué des doubles imaginaires, mais les experts y voient plutôt des déclarations opportunistes et déculpabilisantes. Face à l'un d'eux, il a même avoué « Mes avocats m'ont conseillé d'en parler, on penserait que je suis fou ».
Justin Morin, autre procès qui s'ouvre aujourd'hui à Saintes, celui de Joël Lescouarnec pour viol et agression sexuelle commise sur 4 victimes mineures au moment des faits. C'est le premier volet d'une affaire de pédophilie hors norme.
7h33 sur Europe 1, on va parler d'emploi ce matin. Conséquence de la crise sanitaire, on le sait, le nombre de chômeurs va exploser dans les mois qui viennent. La barre des 10% devrait être franchie l'année prochaine. Et pourtant, un semblant de bonne nouvelle. Pour faire face à cet afflux de chômeurs, Pôle emploi a lancé une vaste opération de recrutement.
2150 nouveaux conseillers depuis cet été. Bonjour Olivier Samin.
Bonjour.
Alors vous nous l'apprenez ce matin, les premiers conseillers vont être opérationnels dans quelques jours.
Oui, d'ailleurs, vaudrait mieux dire les premières, car ces nouveaux agents de Pôle emploi sont à plus de 80% des femmes, moyenne d'âge 36 ans, avec des profils très variés. Dans leur vie antérieure, beaucoup ont travaillé dans le privé, parfois dans des métiers qui, à première vue, ne les prédisposaient pas à devenir conseillers dans une agence de Pôle emploi. Séverine, par exemple, qu'on va entendre dans un instant, elle a travaillé 7 ans comme chargée de clientèle dans une société d'assurance et a ensuite changé de métier. Elle est devenue éducatrice de prévention. Il faut dire que Pôle emploi a ouvert grand ses canaux de recrutement et les candidatures ont été très nombreuses. Beaucoup sont arrivées via le site pôle-emploi.org. Mais tant qu'à faire, quand on s'appelle Pôle emploi, ça serait vraiment dommage de ne pas chercher aussi parmi les chômeurs qu'on a dans ces fichiers. C'est comme ça que Séverine a été recrutée.
Alors vous restez avec nous Olivier, on va écouter Séverine justement. Elle va donc être collègue avec la conseillère qui s'occupait d'elle il y a encore quelques mois. Écoutez.
Il y a encore quelques mois, j'étais d'un côté du bureau, donc en tant que demandeuse d'emploi. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté en tant que conseillère. La première fois, moi, je me suis dit, ça fait bizarre en fait d'être de l'autre côté, parce que on n'a pas l'habitude. Mais au final, ce qu'il faut se dire, c'est que qu'on soit d'un côté ou de l'autre du bureau, on est là pour la même chose. C'est réussir du coup à trouver un travail qui plaît, pouvoir aider et accompagner les personnes qui viennent nous voir dans leur recherche d'emploi, dans leur reconversion aussi. Je peux comprendre en fait la situation dans laquelle sont les gens. Je suis aussi passée par là, comme beaucoup, je pense. Voilà la pression qu'on peut avoir, réussir à faire un CV, une lettre de motivation, son premier entretien d'embauche, tout ça.
Séverine, recrutée en septembre, est déjà quasiment opérationnelle. Ça, Olivier, ça veut dire que la formation n'a pas traîné.
Ah oui, formation intensive en alternance. Une semaine en agence avec un tuteur. La semaine suivante, formation théorique dans un campus ou à distance, protocole sanitaire oblige. Puis retour en agence pour recevoir les chômeurs en binôme. Et ainsi de suite pendant 2 mois et demi. Les 2150 conseillers recrutés sont quasiment tous prêts et tous titulaires d'un CDD de 18 mois. Sachant qu'une deuxième vague de recrutement est prévue, courant 2021, 650 postes supplémentaires pour porter le total des renforts à 2800 conseillers qui seront déployés dans toute la France.
Dossier signé Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
L'UFC Que Choisir dénonce ce matin le manque de transparence des complémentaires santé, alors que nous pourrons changer d'organisme à tout moment à partir de demain. L'association de consommateurs réclame plus de lisibilité sur le taux de redistribution, c'est-à-dire le rapport entre le montant des prestations versées et celui des cotisations collectées par l'organisme assureur.
Et puis c'est aujourd'hui que nous connaîtrons le vainqueur du prix Goncourt. L'annonce avait été repoussée en attendant que les librairies rouvrent leurs portes.
Et c'est désormais chose faite depuis samedi. prix. Le Goncourt, c'est le plus prestigieux des prix littéraires français. Depuis cette nuit, les imprimeurs sont dans les starting blocks pour tirer en 48 heures à peine des centaines de milliers d'exemplaires du futur gagnant. Et nous vous emmenons ce matin auprès des rotatives de Normandie Roto. C'est là que sont imprimés 3 des 4 livres en lice pour le Goncourt. Romain Oquet.
Dès l'annonce du lauréat, on appuie sur le bouton marche des rotatives et ça démarre. Donc c'est un vrai plan de bataille.
Dans l'usine de 10 000 mètres carrés, Christophe Pillon, le directeur, imprime déjà 3 des 4 livres pressentis pour le Goncourt. Ils sont en vente depuis la rentrée. Pour le lauréat, le tirage sera multiplié par 10.
C'est quand même une loterie. Donc on va se préparer pour chacun des 3 titres. Donc c'est la logistique est multipliée par 3. Les papiers intérieurs sont différents, les papiers de couverture sont différents.
Les bobines de papier, 1 tonne chacune, sont prêtes, empilées sur 6 mètres de haut.
Plus de 100 bobines qui vont passer sur la rotative. Ça va faire dans les 150 tonnes.
Les rotatives, des monstres de métal, grimpent jusqu'au plafond de l'imprimerie. Chaque heure, 4000 livres devront passer sur les tapis. Arnaud répartit la production.
Il y aura 3 machines de dédiées sur le prix Goncourt. La moitié de nos machines, jour et nuit.
Cette nuit, justement, c'est Jeff et Antoine qui seront aux commandes.
Une nuit de prix Goncourt, on est à peu près 60 à travailler. C'est une fourmilière, il y en a partout. À emballer les bouquins et à faire la manutention.
Un marathon olympique.
15 salariés ont même été embauchés pour poser à la main le bandeau rouge sur le livre récompensé. L'étape la plus longue qu'il faudra terminer avant l'arrivée du premier camion à 5h du matin.
Un reportage signé Romain Oquet. Alors Jaili Amadou Amal, Hervé Le Tellier, Maëlle Renoir ou Camille de Toledo, on connaîtra le ou la lauréate à 12h30, suivi du lauréate du prix Renaudot 20 minutes après. Et situation sanitaire oblige, c'est par visioconférence que les deux prix seront annoncés.
Et vous parliez des libraires, des librairies, comment se portent-ils? C'est notre dossier, notre enquête, jour de Goncourt bien sûr, et ce sera dans le journal de 8h tout à l'heure avec François Geffrier. Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Aurore Berger, invitée politique de la matinale. La loi de sécurité globale, les manifestations, les questions liées au maintien de l'ordre qui s'imposent, la situation économique dans un contexte d'allègement du confinement, la députée La République En Marche des Yvelines au micro de Sonia Mabrouk, c'est tout à l'heure à 8h15 sur Europe 1. Mais tout de suite, et c'est lié, le Conseil d'État qui donne raison à l'Église catholique et qui invalide la jauge à 30 fidèles maximum par messe. C'est la plus haute juridiction administrative française qui ordonne au gouvernement de revenir sur la mesure dans les 3 jours, d'ici à mercredi. Monseigneur au petit, archevêque de Paris, est l'invité du tête-à-tête Europe Matin dans quelques secondes. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
7h41 sur Europe 1. 30 fidèles par messe, que l'on soit dans une chapelle ou dans une cathédrale. Mesure disproportionnée pour le Conseil d'État. C'est la plus haute juridiction administrative française qui ordonne au gouvernement de trouver un nouveau dispositif dans les 3 jours, d'ici à mercredi. Mon invité n'a pas pris la parole depuis la décision, Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Monseigneur Aupetit, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons du culte de la messe. Nous allons parler du protocole à venir et du Conseil d'État. Mais d'abord, comme nous l'entendions dans le journal de 7h, à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois de Paris, où s'est rendu Nicolas Feldman pour Europe 1, vous avez choisi de braver l'interdit de ne pas respecter le protocole et d'accueillir plus de fidèles.
Ah non, j'ai tout à fait respecté le protocole. Le protocole, nous avons appliqué simplement celui qui permet une distanciation sanitaire logique, c'est-à-dire 8 mètres carrés, les masques et tout ce qu'il faut. Donc nous avons parfaitement respecté. Et la question, c'est ce qu'on nous avait demandé paraissait quand même irrationnel. Et donc, si nous sommes obligés d'obéir à la loi, et nous sommes tout à fait partants pour obéir à la loi, quand cette loi est un peu étonnante, voilà, on essaie d'appliquer ce qui est fondé en raison.
Vous êtes surpris de cette décision il y a quelques jours, le Conseil d'État aussi, mais il y avait plus que 30 personnes à Saint-Germain-l'Auxerrois hier.
Mais c'est ce que je vous dis, nous avons respecté le protocole de 8 mètres carrés et donc avec un masque, enfin tout ce qu'il fallait, comme on le fait dans les grands magasins ou dans les magasins tout court.
Et c'est ce protocole que vous proposez au gouvernement. Jean Castex et Mgr Éric Dumoulin de Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, se sont entretenus. 30% de la capacité dans l'église, c'est la bonne voilure?
Oui, je pense. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que ce soit raisonnable. Là, vous savez, le Conseil d'État n'a simplement validé que le droit français fait place au bon sens. Quand le droit rejoint le bon sens, c'est tout à fait rassurant. Donc, ce que nous proposons, c'est de faire quelque chose de proportionné, comme le Premier ministre l'avait demandé. C'est-à-dire, dans un premier temps, nous faisons 8 mètres carrés. Peut-être, à partir du 15 décembre, on pourra faire 4 mètres carrés. Enfin, bon, voilà, on suit à peu près les protocoles qui s'appliquent partout, tout simplement.
Qui s'appliquent par ailleurs. vos revendications, se placent sur le terrain du droit. Je voudrais citer
l'avocat... C'est une jauge, hein, vous savez, la jauge de 30, c'est un peu ridicule. Quand il s'agit de ma chapelle ici à l'archevêché, 30, on est trop nombreux. Quand on est à Saint-Sulpice, c'est ridicule. Donc la question, c'est une jauge proportionnée. Nous ne demandons pas autre chose qu'une jauge proportionnée comme partout, c'est-à-dire partout on applique une jauge proportionnée à la surface. C'est du simple calcul élémentaire.
Ce que je disais, c'est que vos revendications se placent sur le terrain du droit et rien que du droit. Quand j'écoute ce que dit l'avocat de la Conférence des évêques de France, maître Valdelièvre, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté de culte ne sont pas garanties de la même manière. C'est cet enjeu-là.
Oui, ça me paraît important. Je veux dire que la liberté, elle est une et indivisible. Il n'y a pas de raison qu'elle soit à géométrie variable. Donc c'est un petit peu ce qu'on a dit.
Est-ce qu'il y avait un sous-entendu sur la volonté de laisser le commerce se développer, de laisser les commerçants retrouver leurs clients et d'avoir laissé le culte de côté dans un premier temps ?
Ah, ça, je ne sais pas. Ça, vous me demandez de savoir les intentions d'un ministre. Je ne les connais pas parce que Dieu seul connaît le cœur. C'est ce qu'on dit, nous. Donc, je ne vois pas pourquoi je jugerais d'un homme dont je ne connais pas les intentions profondes.
Il n'en est pas moins qu'on va passer un Noël particulier. J'imagine que l'homme de culte que vous êtes a conscience de ce Noël où on sera sans doute moins nombreux autour de la table. Pas que sur le terrain du culte pur, d'ailleurs, d'un point de vue spirituel élargi.
Oui, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on lance des choses, vous voyez, par Internet, on lance tout un parcours pour les enfants. Là, je suis en train de lancer un projet de concours de poésie autour de la crèche, vous voyez, pour que les gens s'impliquent aussi personnellement, puisque vraisemblablement, on ne pourra pas le vivre comme d'habitude. Au moins, on essaie de trouver des moyens de l'habiter autrement, peut-être de le vivre autrement aussi, mais peut-être de manière heureuse, j'espère.
Et pour en revenir à notre question, Monseigneur Aupetit, pour vous, mercredi, le gouvernement devrait trancher raisonnablement vers une jauge à 30% de la capacité de l'Église.
Je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est simplement ce qui a été décidé avec 30 personnes, quelle que soit la surface, est remis en cause. Donc on ne reproposera pas ça, puisqu'on demande dans 3 jours de proposer autre chose. J'imagine que ce sera une jauge proportionnée, oui.
À coup sûr, Monseigneur Aupetit, les auditeurs d'Europe 1 aimeraient vous entendre sur quelques questions d'actualité. Je voulais vous poser la question du passage à tabac de Michel Zecler, ce producteur de musique parisien. 4 mises en examen, on l'a appris cette nuit, 2 policiers écroués. Après les images d'ailleurs, est-ce que vous les avez vues ? Il fallait être exemplaire ?
Oui, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a un climat délétère quand même en France. D'un côté, les policiers se font tabasser et d'un autre côté, les policiers tabassent. Donc comment on essaie de rétablir le calme là-dedans ? Donc le calme peut se rétablir en justice, c'est-à-dire tous ceux qui passent à la violence doivent être condamnés pour cette violence, quel qu'il soit policier ou qu'il soit manifestant. Donc c'est la question de simple justice. Donc ça, c'est normal. Après, c'est vrai qu'il faut réfléchir comment on rend le climat plus paisible. Notre rôle de chrétien, c'est l'unité. Vous voyez, il y a 3 jours, j'étais dans une paroisse où on accueille des jeunes, vous savez, ces jeunes qui ont passé la Méditerranée et qui se retrouvent mineurs chez nous, dans la rue, et qui peuvent être violents.
Des mineurs isolés.
Nous les prenons en charge, nous les inscrivons dans les écoles catholiques gratuitement, bien entendu. Une sœur se charge aussi de les construire humainement. Et je les ai rencontrés, et c'est des jeunes qui peuvent faire quelque chose. Vous voyez, on ne fait pas le tri. On ne fait pas le tri de ces jeunes. Il y a des jeunes chrétiens, il y a des jeunes musulmans. Puisque je ne fais pas le tri pour les pauvres, je ne voyais pas pourquoi je ferais le tri non plus pour les gens qui viennent à la messe. Donc vous voyez, c'est une question de logique aussi.
Mais je vous ai parlé de Michel Zecler, il y a aussi ces manifestations ce week-end, et vous avez dit, hein, le policier qui tabasse comme celui qui est tabassé. Est-ce que selon vous, Monseigneur Aupetit, il y a, je ne sais pas, une banalisation de la violence dans notre pays ?
Oh, je crois que la violence a toujours été banale, hélas, dans notre pays, si on regarde l'histoire de France. Hein. Mais justement,
pas particulièrement en ce moment.
Peut-être, certainement. Mais la question, c'est comment on sort de cette violence? Comment on permet un climat de respect mutuel, d'attention, d'écoute? Ce qui manque le plus, c'est la fraternité, je crois. Et la fraternité, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. C'est comment on établit des lieux où les gens peuvent se rencontrer, peuvent se parler, même s'ils sont de niveaux d'ethnies différentes, de pays différents et de milieux sociaux différents. Et ce qu'on arrive à faire dans l'église. Moi, j'étais heureux quand j'étais curé de voir un professeur de médecine à côté d'une femme de ménage tamoule et qu'il se parlait autrement que dans la fonctionnalité, c'est-à-dire dans l'amitié. Et c'est ça qu'il faut arriver à établir, je crois, dans beaucoup d'endroits, si c'est possible.
Ce matin, Sébastien Krebs, sur Europe 1, recevait le réalisateur Jean-Jacques Haneau. C'était à 6h20, l'invité inattendu. Et il est revenu sur son film en préparation, sur le terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un projet colossal qui lui prend tout son temps. Écoutez.
On a des gros décors à construire, vu qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir faire brûler Notre-Dame.
Donc,
je
vais brûler une maquette de Notre-Dame ?
Non, pas de maquette, non, non, des décors en taille 1.
En grandeur nature ?
Ah oui, oui, bien sûr, oui. On refait de grosses scènes dans des décors que nous allons brûler.
Michel Petit, ce film devrait sortir en avril 2022. Vous irez le voir ?
Ouais, ça me rappellera de mauvais souvenirs, surtout parce que moi j'y étais. Donc je peux vous dire que oui, j'irai peut-être le voir certainement, parce que dans 2 ans, on sera un peu apaisé par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que ça me réjouit pas tellement de revoir brûler Notre-Dame une deuxième fois. Mais bon, je veux bien aller le voir, bien sûr.
En taille réelle, précisait Jean-Jacques Hano, cette maquette, on aura l'occasion d'en reparler d'ici à 2022. Notre-Dame, faut la reconstruire à l'identique, Monseigneur Petit ?
Je crois que c'est comme ça que c'est prévu, hein, puisque bon, il y a eu plusieurs options, plusieurs hypothèses. En tout cas, sur la structure globale, bien sûr, elle sera reconstruite à l'identique. Pour l'intérieur, c'est-à-dire ce qui est du rôle de l'affectataire.
Et ce qui a fait l'objet de débat la semaine dernière.
Parce que nous, on fait vivre la cathédrale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on y fasse ce qu'on y fait depuis le XIIIe siècle, c'est-à-dire la célébration des mystères chrétiens, c'est-à-dire qu'on y fasse la messe et qu'on puisse venir y prier. Ensuite, nous accueillons, puisque nous sommes catholiques, c'est-à-dire universels, nous accueillons tout le monde. Et je souhaite que cette église soit ouverte, gratuite et non payante. C'est-à-dire qu'on va accompagner les gens pour qu'ils découvrent ce qu'est cette cathédrale, tout un parcours catéchuménal, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette histoire du salut. On commence par la création, on finit par la résurrection du Christ. Donc pour que les gens sachent un peu ce que c'est que cette histoire. Donc voilà. Alors après, les moyens pour le faire, on m'a accusé de vouloir faire des vitraux, des trucs invraisemblables. Bon, enfin moi je veux bien tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a plusieurs hypothèses, plusieurs projets qui sont en cours, mais rien n'est décidé pour l'instant. Il y a des arbitrages à faire et qui se font avec toutes les parties prenantes. Donc voilà, on a voulu faire une polémique, très bien, ben, pourquoi pas. Moi ça ne me dérange pas du tout parce que c'est pas tout à fait vrai.
Très bien, Monseigneur Petit, merci. La réponse est très claire et c'est bien de rappeler aussi, pour le coup, pour nos auditeurs, Notre-Dame de Paris, l'importance du lieu comme d'un lieu de culte d'abord, mais aussi un lieu extrêmement visité avec énormément de passages tout au long de la journée. Ces questions-là se posent évidemment pour la suite de la reconstruction et de la restauration de Notre-Dame de Paris. Monseigneur Michel Petit, archevêque de Paris, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci d'avoir pris quelques minutes ce matin pour les auditeurs d'Europe 1 et nous surveillerons justement les nouvelles décisions du gouvernement concernant la capacité d'accueil des églises, qu'elles soient des cathédrales, vous l'aurez compris, ou des chapelles. 7h51 sur Europe 1. Gérald Darmanin et Emmanuel Macron dans le piège politique de la loi sécurité globale, l'édito politique de Nicolas Bétou. C'est dans une minute avant de retrouver Nicolas Canteloup. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, nous retrouvons Nicolas Bétou pour l'édito politique. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Après une semaine de flottement sur la loi sécurité globale, le gouvernement cherche maintenant, en urgence, à sortir du piège.
Ben oui, parce que c'est bien d'un piège qu'il s'agit. La majorité s'est fait avoir comme un bleu et Emmanuel Macron avec. Il avait bien identifié, le chef de l'État, depuis des mois, le sujet sécurité comme une de ses faiblesses, surtout dans la perspective de 2022. Il avait donc décidé d'investir Gérald Darmanin, un homme de droite, un homme d'ordre, en charge de ces sujets, qu'il a effectivement pris en main.
Et où est le piège ?
Eh bien, il est arrivé caché dans une banale proposition de loi rédigée par 2 députés En Marche. Une sorte de voiture piégée, indétectable, mais qui a fait beaucoup de dégâts. Un explosif à plusieurs composants. Hein. D'abord le zèle de Gérald Darmanin autour du fameux article 24 et de ses déclarations sur le floutage des images des policiers. Rien de mieux pour inciter l'opposition à dénoncer les dérives d'un État policier. Ensuite, deuxième ingrédient, l'affaire de la place de la République.
Oui, l'évacuation de centaines de tentes de migrants par les policiers.
Voilà, une affaire rondement menée par tout ce que le pays compte comme militants d'extrême gauche et d'associatifs aguerris. Envahissement d'une place en plein Paris, installation sauvage de tentes, bien alignées, comme jadis à la parade en URSS. Évacuation avec bien sûr quelques dérapages, vidéo en veux-tu en voilà, et hop, c'était parti. On était passé de la théorie, l'opposition politique à la loi sécurité globale, à la pratique, la démonstration in vivo des risques que peut faire peser la nouvelle loi sur la liberté d'informer et sur la démocratie.
Et tout s'emballe avec le tabassage d'un homme filmé par des caméras de surveillance.
Eh oui, alors ça c'est le gros, gros bug de la séquence, un dérapage insensé qui pulvérise les arguments de Gérald Darmanin. Voilà, la boucle est bouclée. Le débat n'est plus seulement celui de la liberté d'informer, mais celui des violences policières que l'opposition de gauche prend bien soin de décrire comme violence de la police, manière de suggérer que toute la police peut s'y laisser aller. La subtile et classique recherche d'équilibre entre maintien de l'ordre d'un côté et liberté publique de l'autre, eh bien, elle est l'autre victime de la voiture piégée. Du bon boulot, enfin, pour l'opposition de gauche, bien sûr, parce que du côté du pouvoir, c'est la vrille qui continue. On sait tous, Mathieu, ce qu'on fait en France pour régler un problème.
On nomme une commission, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ou un haut commissaire, hein, c'est selon. Enfin, ça, c'est une commission qui a été nommée par le Premier ministre à l'instigation, semble-t-il, du chef de l'État lui-même et de son ministre de l'Intérieur. Pas de chance, les députés qui venaient, certains en se pinçant le nez, de voter la loi sécurité globale, eh ben, ils se sont sentis humiliés. Et ils l'ont fait bruyamment savoir, provoquant une crise ouverte entre eux, le chef de l'État et certains de ses plus proches fidèles, ainsi que les députés de la majorité. Voilà, c'est ce bilan-là que Emmanuel Macron doit maintenant affronter, celui d'une crise politique interne à son propre mouvement, comme jamais il n'y en a eu depuis 3 ans.
Et on va en reparler ce matin longuement. Le ministre de l'Intérieur doit être entendu ce soir par la Commission des lois de l'Assemblée pour apporter des précisions sur ces dernières polémiques, ces dernières violences. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins, juste avant 8h sur Europe 1. Et tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines. Aurore Berger qui a déclaré récemment « Le livre est un bien essentiel ». Et c'est, tiens, c'est François Hollande, l'auteur, qui est venu dire un mot à notre invité. Hey. Bonjour Monsieur le Président.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, bonjour Monsieur Bitou.
Monsieur le Président.
Tiens, pourriez-vous rappeler aux auditeurs, là, comme ça, au débeauté, sans réfléchir, le nom de mon dernier ouvrage?
Alors attendez, parce qu'on en a parlé sur cette antenne, hein, rassurez-vous, là le titre m'échappe. Attendez, je cherche.
Vous voyez qu'il y a un vrai problème au niveau de l'édition. Alors, je vous le rappelle, donc mon best-seller s'appelle « L'État français expliqué aux jeunes et aux moins jeunes oui. ». Cela dit, le premier titre proposé initialement par la maison d'édition était « La politique par le nul ». Mais je trouvais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais qu'il y avait une connotation négative à mon encontre.
Oui, franchement, vous avez bien fait de refuser. Oui. Il se vend bien, votre livre ?
Alors, au niveau des ventes, vous voulez dire oui. C'est pas fou. Bizarrement, les enfants, les petits Français sont plus fans des livres d'Harry Potter que des miens. Et pourtant, j'en parlais d'ailleurs à M. Bétou, machine à café, devenir président de la République après avoir été maire de Tulle, c'est un sacré tour de magie. Oui. Vous ne trouvez pas ?
Oui, oui.
C'est signé voilà. Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. C'est tous les jours à 7h55. Ce matin, vous l'aurez compris, Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15 tout à l'heure. Merci Nicolas, à tout à l'heure, 9h moins le quart, pour la revue de presque. 7h58, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Je vais essayer de ne pas faire la météo par le nul. On va essayer de faire une météo normale.
Concentrez-vous, appliquez-vous, donnez le maximum.
Alors, je voulais, l'hiver frappe ses 3 coups. Hein. Le premier coup, c'est le froid. Il fait moins 8 à Chalon-en-Champagne en ce moment, moins 6 à Nancy, moins 5 à Strasbourg. Le froid est partout pareil. Hein. 1 à Paris, enfin partout pareil, partout. Intense, hein. 3 à Lyon, 4 à Toulouse. Vous voyez, 7 à Brest, ce sont les températures froides. Deuxième coup que frappe en ce moment l'hiver, c'est la vigilance en ce qui concerne le verglas qui sera là ce soir sur la Moselle, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Ardennes. Vigilance verglas donc due à la pluie qui va arriver par le nord dans le courant de la journée. Ça c'est encore bien acquis. Et puis troisième vigilance, la neige qui sera là, probablement c'est la nuit prochaine, mais sous forme de petits flocons sur les frontières du nord et puis sur certains massifs comme le Jura et les Vosges. Et partout ailleurs, eh bien, ce sera un temps après les brouillards, après les brumes, ce sera un temps souvent ensoleillé, en tout cas souvent sec. Il sera la plupart du temps sec, notamment sur tout le sud-ouest, le Poitou-Charentes, l'Auvergne, le Languedoc, le Roussillon. Il sera sec sur la région parisienne, donc pas d'inquiétude pour vous. Quant aux températures maximales, entre 5 et 15 degrés, ce sera notre fourchette du jour. Donc, il va se rattraper le temps-là. Les températures vont se rattraper.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour, François Geffrier.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 8h.
On est plus que satisfait. Nous sommes aujourd'hui rassurés. Ça envoie un signe fort dans le sens de l'impunité que certains auraient pu considérer avoir.
Il n'y a pas d'impunité en France. Le message est clair, envoyé par le parquet, par le juge des libertés et de la détention et salué par l'avocate de Michel Zecler, ce producteur de musique tabassé il y a 9 jours. Quand la Chine se met à croire à un retour du Covid par des surgelés importés d'Allemagne, nous vous raconterons cette histoire incroyable, alors qu'en France, le nombre de patients hospitalisés a baissé de 5000 en 2 semaines. Dans ce journal, le regain de forme des libraires à la faveur du 2e déconfinement, la future jauge dans les églises, nous entendrons l'archevêque de Paris, invité d'Europe 1 ce matin. Et puis un point d'étape du Vendée Globe à l'approche du Cap de Bonne-Espérance.
Juste après ce journal, le pays et même la majorité divisée sur la loi de sécurité globale, on en parlait. Gérald Darmanin contesté en interne, le débat dans la rue aussi avec ces manifestations qui dégénèrent. La députée La République En Marche des Yvelines, Aurore Berger, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk, c'est à 8h15. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Est-ce un traitement exemplaire ou le signe d'une enquête précise sur un dossier sensible ? Le placement en détention provisoire décidé cette nuit de 2 policiers, 2 parmi les 4 mis en cause dans le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler il y a 9 jours à Paris. Les 2 autres policiers étant placés sous contrôle judiciaire.
Bonjour Guillaume Bier.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service police-justice d'Europe 1. Qui sont ces 4 fonctionnaires de police ?
Écoutez, ce sont des policiers jusqu'ici sans histoire. C'est la toute première fois de leur carrière qu'ils sont formellement mis en cause par la justice, y compris le plus expérimenté d'entre eux, un brigadier de 44 ans, aux états de service impeccables depuis près de 20 ans qu'il est affecté dans ce commissariat parisien. C'est lui que l'on voit sur la vidéo, radio à la main, bloquer la porte au jeune qui essayait de prêter main forte. Lui aussi qui donne plusieurs coups à la victime. Il est ce matin en détention provisoire. Ses 2 collègues gardiens de la paix ont 23 et 31 ans. Le plus âgé est très bien noté, pas le moindre accroc dans son dossier. Il est sous contrôle judiciaire, quasi rien à signaler pour le plus jeune, mais d'après nos informations, c'est lui qui a rédigé le procès-verbal d'interpellation, soupçonné d'être un faux en écriture publique. Ce policier est en détention provisoire. Quant au 4e, celui qui est arrivé en renfort, qui a lancé la grenade lacrymogène dans le sas d'entrée, il est sous contrôle judiciaire, 35 ans, bien noté par sa hiérarchie. Il est dans ce commissariat depuis 3 ans et demi. Il a juste été rappelé à l'ordre une fois pour avoir perdu un carnet à souche, une broutille, sans commune mesure avec la gravité des faits dans laquelle ces 4 fonctionnaires sont mis en examen, équivaut donc à 2 d'entre eux d'être en prison ce matin.
Merci Guillaume Biet. Et nous venons de joindre l'avocate de Michel Zecler, Afida El Ali, à l'issue de ces mises en examen des 4 policiers.
Bien évidemment, on est plus que satisfaits. Nous sommes aujourd'hui rassurés. Ça envoie un signe fort dans le sens de l'impunité que certains auraient pu considérer avoir. Aujourd'hui, c'est une belle réponse, ce placement en détention. Il le fallait pour lui, et puis j'ai envie de dire, il le fallait pour tous les citoyens français, qu'ils comprennent que lorsque l'on agit ainsi, on doit être sanctionné à la hauteur de la gravité de ce que l'on commet, quel que soit son statut.
Maître Afida El Ali, jointe pour Europe 1 à l'instant par Rémi Bostsaron. Avec cette affaire et la contestation qui ne faiblit pas sur la loi sécurité globale, un homme va être très observé cette semaine. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, auditionné dès ce soir par les députés de la Commission des lois à 18h15.
Les députés qui se sont sentis humiliés, nous disait Nicolas Bétou il y a 10 minutes, hein, seulement même pas. Dans son édito politique, je reprends sa formule. La loi sécurité globale est une sorte de voiture piégée, indétectable, mais qui a fait beaucoup de dégâts. 8h03 sur Europe 1. Et nous partons en Chine.
La Chine qui était devenue une vitrine, un modèle de lutte contre le Covid. Pas de 2e vague en apparence dans le pays. Des images de boîtes de nuit ouvertes, d'habitants qui circulent sans masque. Cela avait bien circulé jusqu'à chez nous, ces images. Mais voilà, il y a un début de psychose dans le pays.
Et bonjour Sébastien de Belzic.
Bonjour Mathieu.
Le Covid pourrait-il revenir dans les assiettes des Chinois ? Eux se posent la question.
Tous les quotidiens chinois aujourd'hui titrent sur ces nouvelles contaminations liées à des produits surgelés importés. L'agence officielle chinoise tire la sonnette d'alarme en listant les produits sur lesquels des traces de coronavirus ont été découverts. Viande de porc venue d'Allemagne, fruits de mer d'Inde ou du Brésil. Le Global Times publie un reportage dans lequel il explique que les consommateurs chinois boudent désormais les produits étrangers. Les barquettes surgelées sont retirées des rayons et les Chinois ne veulent plus que des produits chinois, affirme le journal. Le quotidien du Shaanxi explique comment les produits importés sont isolés dans des chambres froides et désinfectées, que ce soit les voyageurs venus de l'étranger placés en quarantaine forcée ou les aliments c'est désormais tout ce qui n'est pas chinois qui est potentiellement dangereux, résume en substance le quotidien du peuple.
Merci Sébastien Lebelzi, correspondant d'Europe 1 à Pékin.
Et nous aurons l'occasion de retrouver Sébastien tout simplement pour savoir si le Covid est en Chine ou non. C'est là quand même la question qu'on pouvait se poser au moment où il était censé avoir été éradiqué de certaines régions. Ils étaient déçus et surpris par une jauge à 30 fidèles maximum pour les cérémonies religieuses. Les évêques de France ont parfois ce week-end suggéré aux prêtres d'accueillir plus de monde, vous l'avez entendu, selon la capacité des églises.
Et dans le même temps, leur référé liberté devant le Conseil d'État a fonctionné. Le Conseil d'État qui estime cette jauge disproportionnée, discriminatoire. Une nouvelle limite devra être mise en place, discutée au plus tard d'ici mercredi.
Et ce matin, c'est l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, qui était il y a 20 minutes en direct à mon micro pour le tête-à-tête d'Europe Matin.
J'ai tout à fait respecté le protocole. Le protocole, nous avons appliqué simplement celui qui permet une distanciation sanitaire logique, c'est-à-dire 8 mètres carrés, les masques et tout ce qu'il fallait, comme on le fait dans les grands magasins ou dans les magasins tout court. Et la question, c'est ce qu'on nous avait demandé paraissait quand même irrationnel. Et donc, si nous sommes obligés d'obéir à la loi, et nous sommes tout à fait partants pour obéir à la loi, quand cette loi est un peu étonnante, voilà, on essaie d'appliquer ce qui est fondé en raison.
Michel Aupetit, Monseigneur Michel Aupetit, invité à 7h40, entretien à retrouver sur europe1.fr. Autre réouverture, celle-ci a eu lieu dès samedi également. Les commerçants ont pu respirer, accueillir de nouveau des clients à moins de 4 semaines de Noël.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
Quel bilan les commerçants tirent-ils de ce week-end de réouverture ?
Eh bien, un bilan contrasté. Hein. Si on regarde les grandes villes, la reprise était bonne samedi, mais la dynamique a été stoppée net en fin de journée par les manifestations contre le projet de loi de sécurité globale à Paris, Bordeaux ou encore Rennes. Les commerces de centre-ville affichent une baisse de chiffre d'affaires de 30 à 50% par rapport au même week-end l'an dernier. Une réouverture vécue différemment dans les villes moyennes. Pas de rush dans les boutiques, mais des clients tout de même au rendez-vous. Les coiffeurs, notamment, ont été très sollicités. Et puis, les courses de Noël sont lancées, ça y est. Alors, sans surprise, c'est le secteur du jouet qui s'en sort le mieux. Plus 10% par exemple chez Jouet Club par rapport au même week-end l'an dernier. Les magasins de vêtements s'en sortent bien aussi, se réjouit Eric Merz, président de la Fédération de l'habillement.
On a eu une très très bonne tenue du secteur prêt-à-porter enfant, même si les ventes femmes et hommes étaient un petit peu en retrait. Toutefois, un très bon panier moyen. Et donc, par conséquent, un chiffre d'affaires sensiblement identique à celui de l'année dernière, à date comparable. Donc, on peut considérer que le pari est gagné, la reprise est bien amorcée.
Un début encourageant donc, mais les commerçants anticipent déjà la suite. Ils demandent au gouvernement un report des soldes d'hiver de 2 semaines, du 6 au 20 janvier, le temps de refaire leur trésorerie.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Parmi tous ces commerces, il y a les libraires qui vont guetter aujourd'hui à 12h30 l'annonce du lauréat du prix Goncourt, décerné avec plus de 3 semaines de retard.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Mathieu, bonjour François.
Le monde de la culture a beaucoup souffert des 2 confinements. Les libraires, peut-être un peu moins. Comment ont-ils traversé cette période ?
Alors, pour résumer, ça va. Mais il y a 2 catégories. Il y a ceux pour qui le click et collect a été un succès inattendu. J'en ai croisé un la semaine dernière en région parisienne qui a doublé son chiffre d'affaires. C'est l'exception. Dans les grandes villes et à Paris en particulier, la plupart ont sauvé les meubles. Ils sont à 30-40% de leur chiffre habituel. Ça a été beaucoup plus dur en revanche dans les plus petites villes. Mais ce qui a bien aidé, c'est le militantisme de certains clients qui ont dit « on va sauver les librairies » et qui donc ont renoué avec leur librairie de quartier plutôt que de commander sur Amazon par exemple.
Et ce week-end, est-ce que les clients sont revenus ?
Oula oui. Chez les libraires que j'ai consultés hier soir, 10, c'est carton plein. On n'attendait pas le chaland. La difficulté, c'était plutôt de maintenir la jauge sanitaire. La FNAC, idem, très beau week-end. C'est l'effet des confinements couplé à l'urgence des cadeaux de Noël.
On a eu le sentiment en tout cas qu'il y avait un retour en grâce du livre, de l'objet livre, non ?
Le produit essentiel, n'est-ce pas ? Alors c'est un peu tôt pour le savoir, mais effectivement la plupart des observateurs sont d'accord pour dire que pendant le premier confinement en particulier, beaucoup ont repris goût à la lecture, faute de cinéma, faute de théâtre, faute de sortie. Et donc, on peut espérer que ce retour en grâce s'installe dans la durée. Enfin, pour l'instant, les librairies sont plutôt soulagées, prêtes pour le rush de Noël et les clients ravis. Mélina Fachin est allée à leur rencontre à la librairie Broglie de Strasbourg.
Ça fait énormément de bien de sentir l'odeur des livres, la couverture qui craque un petit peu quand on l'ouvre.
Et surtout, cette faculté de découverte. Vous n'aviez pas d'idée, tout à coup, vous tombez sur un auteur, un titre, c'est irremplaçable.
Et chez les éditeurs, Nicolas, comment ont-ils traversé cette période ?
Ils ont eu chaud, mais ils sauvent les meubles aussi. Plus que ça même, en moyenne, tout confondu, ils ont fait moins 7% sur l'année. Le numérique, surtout au printemps, a augmenté de 20%. Franchement, ils s'attendaient à bien, bien pire, notamment avec la fermeture des rayons livres de la grande distribution. Mais, ce qui a sauvé le marché, en fait, ce sont les poids lourds, les best-sellers. Forcément, si vous flânez pas dans les librairies, vous trouvez pas la pépite inconnue. Alors Olivia Ruiz, John Grisham, Amélie Nothomb, Carrère, Obama, bien sûr. Tous ces livres se sont très bien vendus, mais les écrivains méconnus n'ont pas vraiment pu émerger, d'autant que toutes les rencontres en librairie ont été annulées. Ça, c'est le bémol. Mais la conclusion, quand même, c'est que oui, l'édition ne s'en sort pas trop mal et le mois de décembre devrait être intense avec l'arrivée des prix à partir d'aujourd'hui. Midi 30.
Midi 30, donc c'est le Goncourt. Le Goncourt, c'est 300 à 400 000 exemplaires en général, dont en 200 000 dans les 48 premières heures. On entendait ce matin un reportage incroyable dans l'imprimerie.
Les rotatives sont prêtes.
Exactement. Donc le prix Goncourt annoncé pour la première fois en visio. Merci Nicolas Caro.
Oui, Nicolas Caro qui est notre spécialiste livre. Et quand vous voyez sur Europe 1.fr la blessure qu'il a à la main, là je raconte des choses personnelles, je suis désolé. Il valait mieux laisser ouvert les librairies que les magasins de bricolage. Quand je vous vois, Nicolas Caro, c'est ce que ça m'inspire.
Autre blessure, tiens, à ce propos. Aux États-Unis, un futur président avec une entorse à la cheville. Joe Biden, 78 ans, s'est fait mal au pied droit en jouant avec son chien, ce qui nous donne l'occasion de faire connaissance avec ses deux bergers allemands, Major et Champ. Joe Biden qui annonce par ailleurs une équipe de communication à la Maison-Blanche 100% féminine.
8h11 sur Europe 1. Ils se sont élancés il y a 3 semaines. Les skippers du Vendée Globe vont commencer à passer les uns après les autres au bout de la pointe sud de l'Afrique, le fameux Cap de Bonne-Espérance.
Et le premier d'entre eux, c'est un homme qu'on suit depuis le début de la course sur Europe 1 avec son carnet de bord tous les samedis à 11h, Charlie Dalin.
Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour.
Notre spécialiste voile à Europe 1. Charlie Dalin, seul en tête devant Thomas Ruyon et Kevin Escoffier.
Oui, Charlie Dalin n'avait encore jamais passé plus de 20 jours en mer et il rêvait de découvrir en course ces fameuses mers du Sud. Eh bien, les deux cases sont cochées pour le Havrais de 36 ans qui possède ce matin une avance de 450 km sur son premier poursuivant. Le solitaire a été le premier à aborder les 40e rugissants, à flirter même avec la limite d'exclusion des glaces, une ligne virtuelle mise en place par l'organisation pour éviter les icebergs de l'Antarctique à la dérive. Dans quelques heures, à bord de son monocoque Apivia, le navigateur doublera donc le premier des 3 caps de ce Tour du Monde, accompagné par un premier gros coup de vent.
Alors on l'a contacté justement tout à l'heure par liaison satellite, Charlie Dalin. Il était au milieu des flots et à l'approche du gros temps. La ligne n'était pas fameuse, mais on va l'entendre. Et Mathieu, ce que vous allez faire une sorte de traduction simultanée.
La première tempête est prête là. Profile à l'horizon devant moi.
Il nous dit qu'il a la première tempête australe qui se profile à l'horizon. L'objectif, c'est de la gérer, de sortir le bateau et moi-même indemne, nous dit Charlie Dalin, de cette première tempête. Je vais découvrir l'océan Indien. Les météorologues appellent ça le tunnel. Écoutez bien, un enchaînement de tempêtes, un ciel gris uniforme, un endroit qui est absolument hostile à la navigation. C'est glaçant.
Ah, hostile à la navigation et visiblement aussi aux liaisons téléphoniques. Corinne Boulou, à l'orée de cette 4e semaine, on peut dire que les rebondissements n'ont pas manqué dans ce Vendée Globe.
Oui, alors ils sont encore 31 en course, 2 concurrents sont hors-jeu. Ce week-end, c'est l'un des favoris, le gallois Alex Thompson, qui a fini par abandonner. Thomas Ruyant, actuel deuxième, a dû jouer, lui, les équilibristes au ras des flots pour scier l'un de ses foils. À bord, chacun a ses petits soucis techniques à résoudre, sans compter une météo, vous l'avez compris, très complexe, peu favorable au record.
Corinne Boulou, spécialiste voile d'Europe 1, et donc je renvoie à nos auditeurs à Europe1.fr et au podcast d'Europe 1 tous les samedis à 11h, le carnet de bord de Charlie Dalin qui est en tête du Vendée Globe.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un homme passé à tabac par des policiers. Un policier lynché en marge de manifestation. Mais où est donc l'autorité ? La majorité soutient-elle l'exécutif et le ministre de l'Intérieur ? Alors notre invité, vous allez l'entendre, n'a pas sa langue dans sa poche. C'est la députée Aurore Berger. A tout de suite.
Il est 8h13 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines.
Bienvenue et bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
En quelques jours, un homme, Michel Zecler, tabassé par des policiers. Un policier lynché en marge de la manifestation samedi. Qui est responsable d'un tel climat de violence, un tel déchaînement ?
Déjà, il y a malheureusement une forme d'habitude à la violence. On s'est habitué à voir des manifestations qui sont de plus en plus violentes depuis les manifestations contre le G7, les manifestations El Khomri. On s'est habitué à ce que nos forces de l'ordre, nos pompiers soient eux-mêmes les victimes de ces violences, comme si finalement, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, ça fait partie de leur travail, ils ne sont pas prêts à l'accepter, il faudrait qu'ils fassent autre chose pour le citer. Et je crois que c'est cette habitude qui est extrêmement pernicieuse dans notre pays. On ne peut pas et on ne doit pas s'habituer à la violence, quelle qu'elle soit et quelle que soit la personne contre laquelle elle s'exerce. Que ce soit Michel Zecler qui est tabassé en l'espèce par des forces de l'ordre ou que ce soit les forces de l'ordre qui sont lynchées dans une manifestation.
Mais pourquoi avoir besoin de le rappeler ? Est-ce qu'on s'indigne autant d'un passage à tabac insoutenable par des policiers que d'un lynchage évidemment tout aussi intolérable de policiers ?
Malheureusement non. On voit bien les réactions et on voit bien finalement qu'il y a une forme de hiérarchie qui est en train de s'établir entre les différentes violences. S'indigner contre les violences subies par Michel Zecler, c'est nécessaire. Et je vois bien aussi ceux qui ne s'indignent pas. L'extrême droite ne s'indigne pas parce que peut-être ont-ils peur de se couper des forces de l'ordre. Or, justement, soutenir les forces de l'ordre
ne s'indigne pas.
Bah, en tout cas, moi, je n'ai pas vu de réaction claire et nette de la part du Rassemblement national, par exemple. Or, de fait, s'indigner de ces violences-là, c'est justement soutenir les forces de l'ordre qui ne peuvent pas être apparentées à ces quatre policiers qui, eux, ont dévoyé l'uniforme et qui méritent d'avoir des sanctions administratives. Et puis ensuite, c'est la justice qui dira quelles sont les sanctions judiciaires qu'elles doivent avoir. Mais je vois aussi, malheureusement, trop peu de réactions quand ce sont des forces de l'ordre qui se font attaquer, quand c'est un policier qui, hier, alors qu'il est à terre, est roué de coups et est insulté.
Mais allons plus loin, vous dites qu'il y a des indignations à géométrie variable. Par exemple, vous voulez dire que des stars du football qui portent aussi le maillot de l'équipe de France, comme Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, devraient aussi réagir, que ce sont des policiers qui se font lyncher ?
Je n'ai pas d'injonction aux uns et aux autres réagir. Mais à partir du moment où on s'indigne des violences et qu'on a raison de s'indigner des violences, alors on ne peut pas le faire à géométrie variable. Alors on ne peut pas s'indigner dans quelques cas pour éviter de s'indigner dans les autres, comme s'ils étaient normaux, comme s'ils étaient légitimes. Il n'y a aucun moyen excessif de violence qui soit légitime. Et encore une fois, que ça s'exerce à l'encontre d'un de nos concitoyens qui vraisemblablement ne méritait absolument pas que l'on puisse s'attaquer à lui, ou que cela s'exerce à l'encontre de nos forces de l'ordre. Et c'est bien cela dont il était question et dont il est question dans la proposition de loi que nous avons portée.
On va en parler parce que
Comment faire pour lutter contre ce phénomène ?
Mais Aurore Berger, il y a l'indignation des citoyens et l'action de l'exécutif. Il n'y a pas d'autorité de l'État sans autorité dans l'État. Est-ce qu'il y a, je vous pose la question directement, un problème, Gérald Darmanin, aujourd'hui ?
Il n'y a pas de problème avec le ministre de l'Intérieur. Il a le ministère qui est probablement le plus exposé, qui a toujours été l'un des ministères les plus exposés, quels que soient d'ailleurs les quinquennats. Si le problème, Gérald Darmanin, c'est parce qu'il assume, en effet, de s'indigner et de soutenir les forces de l'ordre quand elles sont attaquées, alors il va y avoir un problème avec beaucoup d'entre nous, parce qu'en effet, on ne laissera pas les forces de l'ordre être attaquées.
Oui, mais certains de vos collègues, Aurore Berger, qui vont d'ailleurs auditionner tout à l'heure le ministre, dénoncent un virage sécuritaire depuis sa nomination place Beauvau, et disons-le clairement, ils cherchent à le faire trébucher.
Écoutez, moi je
ça vous
je
le niez pas. Il y a des anti-Darmanin dans la majorité.
Vous savez, malheureusement, je pense qu'il y a toujours eu. Regardez, il y a eu trois ministres de l'Intérieur depuis le début du quinquennat. Vous voyez bien qu'ils ont été les uns et les autres chahutés et parfois même aussi dans la majorité.
Mais d'ailleurs, il y a un ancien ministre de l'Intérieur qui peut-être fait partie de ces anti-Darmanin.
Ça, j'en sais rien.
Monsieur Christophe Castaner qui mène.
Je crois qu'en
la majorité
tout cas,
à l'Assemblée.
Je crois qu'en tout cas, on a besoin justement de cohésion. On a besoin déjà de concorde dans notre pays et on en est aujourd'hui très loin et trop loin. On a besoin de retrouver des voies d'apaisement et qui doivent aussi évidemment concerner la majorité dans la manière avec laquelle on peut ensuite conduire des politiques
publiques.
Est-ce
qu'il faut pour cela supprimer l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale qui est devenu un abcès de crispation ?
Cette proposition de loi, elle dit quoi ? Cette proposition de loi, elle dit qu'on doit renforcer au quotidien la sécurité des Français. Elle dit qu'on doit s'appuyer sur les policiers municipaux.
Oui, mais vous avez beau l'expliquer, vous l'avez mal expliqué.
Peut-être
tout cela
qu'on
a été
mal expliqué.
Manchée. Et à partir de là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous la maintenez
en tout
au
cas,
risque d'une étincelle encore ?
Mais moi, je vois bien aussi l'escalade dans laquelle l'extrême gauche essaie de nous faire rentrer. Donc d'abord, c'est on supprime un article de loi. Ensuite, c'est on doit supprimer toute la proposition de loi. Puis demain, évidemment, on demandera la démission du ministre de l'Intérieur. On voit bien le schéma, c'est toujours le même. La proposition de loi, elle est arrivée. Pourquoi ? Parce qu'on doit enfin permettre que dans notre pays, toutes celles et ceux qui concourent à notre sécurité puissent travailler ensemble. Mieux contrôler et mieux former les personnes qui travaillent dans la sécurité civile, les forces de sécurité privées qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment formées, encadrées, contrôler, mieux travailler avec la police municipale. Et enfin, sur le fameux article 24, donc malheureusement, je crains qu'on n'arrive plus aujourd'hui à expliquer quel était véritablement son objectif.
Vous l'admettez.
Oui, parce qu'à un moment, on voit bien quand on
donc,
a perdu à un moment cette
bataille-là. Quelle conclusion vous en tirez ?
Mais j'en tire une conclusion simple, qui est que la loi, elle se fait au Parlement. La loi, elle se fait pas sous la pression des corporations. Elle se fait pas
ni
sous la pression des lobbies.
Indépendante.
Elle se fait pas par une commission
ni
indépendante commission et elle se fait pas sous la pression de la rue. Donc la loi, elle doit se faire dans un cadre qui doit être serein, dans un cadre de débat parlementaire.
Mais l'est-il,
elle
Aurore
va aller
Berger,
au Sénat,
crise politique,
et puis elle reviendra
crise
à
institutionnelle, crise sécuritaire, et vous parlez d'un débat serein, c'est un vœu pieux.
Mais c'est un vœu que moi je forme parce que je suis députée et que les députés, je crois que ça sert encore à quelque chose dans notre pays. Ça sert notamment à être en capacité de prendre du recul et pouvoir faire la loi justement en arrivant à s'extraire d'un climat, qu'il soit un climat social, politique, c'est-à-dire arriver
certes,
enfin
mais êtes-vous
à
représentative
débattre.
Aujourd'hui de vos collègues dans la majorité ? Certains d'ailleurs, expliquez-moi, dénoncent un virage sécuritaire alors que la délinquance augmente. Comment
mais
est-ce possible ?
Moi je ne crois pas au virage sécuritaire. Vous savez, quand on a été élu, on a voulu sortir de l'état d'urgence, parce qu'il y avait eu la mise en place d'un état d'urgence pour répondre à la question des attentats. On nous disait à ce moment-là, vous êtes des dangereux laxistes. Et puis aujourd'hui, on serait évidemment des dangereux sécuritaires. Qu'est-ce qu'on a fait dans le mandat en termes de sécurité ? D'abord, on a renforcé les moyens matériels de nos forces de l'ordre, parce qu'ils étaient pour souvent
dans des conditions indignes. Mais vous savez ce que disent les
policiers,
les moyens c'est très bien, la chaîne pénale et la réponse pénale c'est peut-être mieux si elle suit.
Il y a l'ensemble à couvrir.
Mais est-ce que ça suit ?
Alors attendez, d'abord il y a la question des moyens, parce que quand vous êtes dans des conditions qui sont indignes en matière immobilière, quand vous n'avez pas de véhicule qui soit digne, quand vous n'avez pas suffisamment de force de l'ordre sur le terrain, et donc recruter chaque année 2000 policiers et gendarmes, ça a un impact aussi direct sur votre capacité à intervenir. Quand vous renforcez aussi la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, est-ce que là aussi c'est du tout sécuritaire de se dire qu'il faut mieux protéger les femmes dans notre pays ? Et je pourrais vous citer
donc
un certain nombre.
Donc là vous dites à vos collègues ce matin, non, il n'y a pas de virage sécuritaire sous le quinquennat d'Emmanuel Macron avec Gérald.
Il faut
Darmanin.
Cesser les faux procès, il faut surtout éviter de se les intenter à soi-même. Parce que sinon, je pense qu'on aura un problème de cohérence.
D'accord,
mais on
alors
a
quand...
juste la nécessité, en effet, de répondre à un enjeu qui est à la fois un enjeu d'autorité, qui est un enjeu du respect de la loi dans notre pays, qui est un enjeu du respect des forces
Madame
de l'ordre.
Aurore
et pour
Berger.
Ça, il faut dénoncer
oui,
quand elles ne sont pas respectables.
Je vous entends depuis tout à l'heure. Mais
et la réponse pénale, évidemment.
Respect de l'autorité, fermeté, quand on vous entend ce matin, comment vous avez réagi à l'évacuation, au démantèlement musclé Place de la République ?
Mais il y a deux points qui sont essentiels. La première des choses, c'est que quand vous avez un campement qui est un campement illégal, ce campement a forcément vocation à être démantelé. Et malheureusement, ce démantèlement doit se faire par des forces de l'ordre et avec une action de maintien de l'ordre. Et puis ensuite, il y a les conditions dans lesquelles ce campement a été démantelé. Et c'est la raison pour laquelle on a eu notamment un rapport de l'IGPN et qu'il y a certaines personnes qui sont mises en cause sur la manière avec laquelle c'est fait. Mais on ne va pas tomber non plus dans tous les pièges.
Quel piège ?
Les pièges notamment de l'extrême gauche. Moi, je suis désolée.
Encore ?
En l'espèce, d'ailleurs.
Mais vous les voyez partout ?
Non, je ne les vois pas partout. Je vois juste que, de fait, on avait des associations qui ont incité et qui ont fait en sorte que ces personnes qui sont dans des situations de détresse sociale et humanitaire soient positionnées Place de la République, sachant pertinemment qu'elles en seraient évacuées. La responsabilité de l'État, c'est non seulement de permettre, évidemment, que la loi soit respectée, et donc quand on est dans l'illégalité, démanteler, évidemment, les camps, et de replacer les personnes dans des conditions dignes d'hébergement.
Aurore
c'est
Berger.
Ça l'équilibre. Mais...
Tout cela intervient en pleine crise sanitaire. À votre avis ce matin, que pense le citoyen, l'honnête citoyen qui est verbalisé, lui, pour défaut d'attestation ? Que pense le commerçant qui fait des efforts pour respecter toutes les règles ? Que pense-t-il quand il voit des casseurs s'en donner un cœur joie et presque en toute impunité dans la capitale ?
Il pense de manière très claire qu'il y en a assez.
Eh oui.
Qu'il y en a
mais
assez.
Mais c'est vous qui représentez la majorité du pouvoir.
Parce qu'eux, ils viennent de rouvrir leur commerce pour un certain nombre d'entre eux. Ils ont besoin justement d'avoir cette sérénité qui le permet. Donc moi, je pense qu'en tant que parlementaire, que notre rôle en tant que politique, c'est à la fois de renforcer l'ensemble de la chaîne pour permettre que, que les Français puissent vivre tout simplement dans un climat qui doit être un climat serein, un
mais
climat où on peut rétablir
l'autorité. Mais est-ce que vous avez les moyens de
le
faire ? Est-ce que l'exécutif et vous parle ? On parle d'un
sûr.
Vrai problème de méthode, d'une absence totale de consultation. Et si même il y a quelques jours, le président du Sénat disait « mais parlons-nous, appuyez-vous sur le Parlement ».
Le président du Sénat, ça ne vous aura pas échappé, est aussi l'un des premiers représentants de l'opposition. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'évidemment, on doit avoir ce dialogue entre la majorité et l'exécutif, et c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, le Premier ministre sera devant nous demain matin, donc ça permettra aussi à nouveau de renouveler ce dialogue.
Vous lui demandez un mot d'excuse. Est-ce que le Premier ministre doit vous dire pardon, j'aurais pas dû penser à une commission, un mot d'excuse.
Non,
vous
avez compris.
Est-ce qu'il doit se justifier sur cette idée de commission indépendante ?
Moi, je veux juste, encore une fois, on a besoin de retrouver de l'apaisement. On n'y arrivera pas si, entre nous, on donne le sentiment d'être divisé et si on donne le sentiment d'être à côté des préoccupations. Donc, les préoccupations aujourd'hui des Français, c'est quoi ? C'est faire en sorte tout simplement que la crise sanitaire elle puisse passer. C'est faire en sorte de retrouver nos familles. C'est faire en sorte que nos commerces rouvrent. C'est faire en sorte que Noël soit la fête qu'on attend. C'est faire en sorte qu'on puisse enfin retrouver cette concorde républicaine dont on a besoin. Ce qui signifie justement ne pas hiérarchiser les violences quand elles existent. Ce qui signifie les dénoncer partout quand elles existent. Qui que ce soit, encore une fois, qui en soit la victime, et nous, politiques, faire en sorte de trouver les moyens que l'ensemble de la chaîne soit efficace, recrutement, moyens matériels et réponse pénale qui doit être plus affirmée dans notre pays.
Que de défis. Et en mot de conclusion, est-ce que pour tout cela, une réforme des retraites est indispensable en ce moment ?
Je ne sais pas si elle est indispensable en ce moment. Ah. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, on ne peut pas donner le sentiment que la réforme doit s'interrompre parce qu'il y a une crise sanitaire et malheureusement un risque de crise économique
et
sociale.
Donc on risque d'allumer l'étincelle sociale.
Non, mais vous savez,
pour une réforme des retraites et sa reprise.
Encore une fois, la loi, elle se fait au Parlement. Elle se fait ni sous l'influence de lobbies, de corporations, ni sous l'influence de la rue ou de quelques mouvements. Il faut qu'on continue à réformer parce que c'est aussi là-dessus qu'on a été élus, sur l'espoir qu'on pourrait enfin réformer le pays.
Merci Aurore Berger d'avoir été notre invité ce matin, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous,
ainsi qu'à
nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info avec Hélène Zélani, la météo, Laurent Cabrol et notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Presque 8h30 sur Europe 1, l'info avec Hélène Zélani.
Ils sont tous mis en examen, les 4 policiers impliqués dans les coups portés au producteur de musique Michel Zecler. 2 dorment en prison, les 2 autres restent en liberté sous contrôle judiciaire, dont celui qui avait lancé la grenade lacrymogène. C'est dans ce contexte que Gérald Darmanin est auditionné ce soir par la commission des lois de l'Assemblée, notamment sur la loi sécurité globale. Un ministre de l'Intérieur cible de toutes les critiques, y compris dans la majorité, Aurélie Herbemont.
Pas facile d'avoir des commentaires sympas sur Darmanin, admet un proche du ministre, lucide sur les critiques venues de la majorité. Le locataire de Beauvau doit donc déminer. Avant son audition de ce soir, il verra les marcheurs de la commission des lois à 9h. Demain, il a même rendez-vous avec tout le groupe En Marche, où règne exaspération, crispation et sidération, selon une députée. Un marcheur juge le ministre responsable de la bronca contre l'article 24. Il a raconté n'importe quoi avec le floutage des policiers. D'autres pointent sa bévue sur l'accréditation des journalistes aux manifestations. Sa proposition de faire réécrire l'article 24 par une commission indépendante n'a rien arrangé. Lui tient à cette mesure, mais ce n'est plus lui qui a la solution, tacle un parlementaire. Gérald Darmanin n'était même pas invité hier à la réunion à Matignon avec des cadres d'En Marche. Ses soutiens, eux, saluent sa capacité à montrer que la Macronie peut s'occuper de sécurité. Il sera jugé sur le retour de l'ordre, explique son entourage. En attendant, la Macronie n'est pas épargnée par le désordre.
Le week-end a été bon dans les commerces après 4 semaines de fermeture. Verdict hier soir d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie. C'est le secteur du jouet qui s'en sort le mieux, plus 10% par exemple chez Jouet Club par rapport au même week-end l'an dernier. Le Conseil d'État donne gain de cause à l'Église catholique sur la jauge maximale de 30 personnes lors des cérémonies religieuses. La plus haute juridiction administrative demande au gouvernement de revenir sur sa mesure dans les 3 jours. Quelles sont les conséquences de la crise du Covid sur l'état psychique et le suivi des malades chroniques ? Une grande étude scientifique est lancée aujourd'hui par France Asso Santé qui rassemble 85 associations de patients. L'objectif, c'est de recruter 10 000 volontaires. Pour qui le vaccin d'abord ? On connaîtra dans la journée les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Les professionnels en contact direct avec les malades et ceux les plus à risque devraient être les premiers concernés, ainsi que les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Dès demain, vous pourrez résilier à tout moment votre complémentaire santé. Mais comment choisir la bonne ? L'UFC Que Choisir dénonce l'opacité du secteur sur le taux de redistribution, c'est-à-dire la part des cotisations que les assurés récupèrent réellement. Mathieu Esco est le directeur des études de l'association de consommateurs.
En étudiant les devis de près d'une trentaine d'organismes complémentaires, on s'est rendu compte que pour environ un tiers d'entre eux, on n'a pas réussi à obtenir l'information, soit qu'il n'était pas possible d'obtenir de devis, soit que sur les devis, l'information obligatoire n'y figure pas. Et puis, évidemment, chez ceux qui indiquaient l'information, il y avait ceux qui jouaient le jeu de la transparence, c'est-à-dire une information claire, facile à trouver, et puis ceux qui se contentaient de l'indiquer en tout petit, dans les petites lignes en bas de votre devis, là où personne n'ira aller chercher.
Un propos recueilli par Diane Berger, et jusqu'au 7 décembre, l'UFC Que Choisir propose gratuitement son comparateur indépendant de complémentaire santé. Un chauffeur routier qui transportait des matières dangereuses arrêté en état d'ivresse près de Strasbourg. L'homme venait de rouler une vingtaine de kilomètres à contresens sur l'autoroute A35. Son taux d'alcoolémie était proche des 2 grammes. Une sortie de route mémorable. On a surtout frôlé le drame hier au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. La monoplace de Romain Grosjean s'est coupée en deux, a pris feu après avoir heurté un rail de sécurité à 220 km/h. Il est sorti de la voiture sain et sauf et ne souffre que de légères brûlures. Il a envoyé ce message depuis son lit d'hôpital.
Salut tout le monde, pour vous dire que je vais bien, enfin à peu près. Merci pour tous vos messages. Je n'étais pas favorable à l'arceau de sécurité il y a quelques années, mais je pense que c'est une grosse avancée pour la F1. Sinon, je ne serais pas en mesure de vous parler aujourd'hui. Merci à tous, merci au service médical et j'espère rapidement pouvoir répondre à vos messages.
Romain Grosjean et puis le foot, hein, partout entre Lille et Saint-Etienne. Hier soir, match nul et occasion manquée pour les Lillois qui talonnent toujours le PSG en tête de la Ligue.
Merci beaucoup Hélène Zelani et vous Hélène, Jimmy Mohamed qui s'est déjà installé en studio. On va vous retrouver dans un instant Jimmy. Beaucoup de nos auditeurs qui ont des enfants en bas âge. J'ai la bande-son de Noël 2020. Elle s'appelle Valentina et cette voix, c'est la voix d'une jeune Française de 11 ans qui vient de remporter l'Eurovision Junior 2020. C'est la première victoire française en 18. Mais ne regardez pas comme ça, on n'y arrive pas chez les adultes. Autant se réjouir des enfants. On n'y arrive pas depuis Marie-Myriam, l'enfant et l'oiseau. Donc on a une victoire à l'Eurovision. On la prend, Hélène, Jimmy, on est content. Valentina, ça s'appelle J'imagine.
Moi je suis prête.
Et pour le coup, la jeune chanteuse, très jeune chanteuse, disait, a dit après sa victoire qu'elle voulait faire passer un message positif et ramener de la joie dans cette période. Ça, on va pas lui reprocher quand même à Valentina. 8h35 sur Europe 1, c'est tout nouveau, c'est français et c'est gagnant à l'Eurovision. Laurent Cabrol avec nous pour la météo, mon cher Laurent.
Et avec les ingrédients d'un hiver qui s'ouvre un petit peu avec, avec un jour d'avance, l'hiver météorologique c'est demain, nous avons du froid, le froid s'intensifie encore un tout petit peu, essentiellement ce sont les régions qui bordent les frontières du nord qui sont touchées, et puis attention ce soir la pluie va arriver sur le nord, elle va se pousser si je puis dire, se balader vers la Lorraine, l'Alsace et les Ardennes, et ce sont des régions qui seront marquées par des vigilances oranges parce que le verglas sera là, et peut-être même quelques chutes de neige, donc vous voyez nous avons vraiment des ingrédients hivernaux. Voyons maintenant la couleur du ciel sur la majeure partie des régions de France. Il y a pas mal de brouillard ce matin. Nous avons des brouillards qui vont se dissiper assez rapidement. Et ensuite, il y aura des éclaircies, notamment sur la capitale. Du soleil sur le sud-ouest, le Languedoc, le Roussillon, la Provence, le Limousin et l'Auvergne, ainsi que la Poitou-Charente. Là, le soleil baignera en général pratiquement toute la journée. Et des températures qui, donc, ce matin, largement se situer autour de moins 5 à moins 8 degrés. Et dans l'après-midi, 4 à Bourges, 5 à Lyon, 8 à Tours, 9 à Lille, 10 à Paris, 11 à Caen et 15 degrés du comté niçois.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Non, je ne vous ai pas coupé la parole Laurent.
Non,
tout va bien. Il vous arrive d'avoir un peu mal au dos, mal à la nuque à cause du stress, de la fatigue Laurent Cabrol?
Ah bah oui.
Oui, bah beaucoup en ce moment, oui. Vous savez, on a quelques conseils de Jimmy Mohamed, notre santé dans quelques secondes.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe 1, nous retrouvons le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre santé, nous allons avec vous ce matin Jimmy prendre soin de nos cervicales et de notre cou. C'est vrai qu'avec le télétravail, il est normal d'avoir plus de douleurs que d'habitude.
Oui, c'est vrai que le télétravail favorise les douleurs au niveau des cervicales, puisque vous allez passer plus de temps derrière votre ordinateur, souvent dans de mauvaises positions. En ce moment, on vit un peu de stress, on est un peu plus sédentaire, et donc c'est normal d'avoir plus de tension musculaire. Alors, tout commence au moment de votre coucher. Dans quelle position, Mathieu, vous dormez la nuit ?
Sur le côté gauche.
Eh ben, c'est
parce
une très bonne chose.
Parce que je ronfle moins.
Eh ben, sur le côté,
c'est
sur
un
le
autre sujet.
C'est un autre sujet qu'on pourra traiter aussi. Alors, la pire des positions pour votre cou, c'est de dormir sur le ventre. Puisque quand vous dormez sur le ventre, vous ne respectez pas ce qu'on appelle la courbure physiologique de votre colonne vertébrale. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre colonne vertébrale, elle ne forme pas un I. Elle n'est pas droite, contrairement aux idées reçues, elle forme plutôt un S. Et donc quand vous dormez sur le ventre, vous allez tourner votre tête pour respirer à droite ou à gauche, et donc vous allez déformer cette colonne vertébrale et majorer vos douleurs. Donc les positions dans lesquelles vous devez dormir, c'est sur le dos ou sur le côté. Souvent, on néglige notre oreiller. Eh bien, mine de rien, il y a deux choses à faire. La première, c'est de choisir un de qualité, de préférence en plume. Et avec le temps, ces plumes vont s'affaisser, donc votre oreiller sera moins fonctionnel et vous risquez d'avoir des douleurs le matin. Ou sinon, d'investir dans un oreiller à mémoire de forme. Ils sont un peu plus physiologiques.
C'est bien ça ? Ça marche bien ça ?
C'est plume ou mémoire de forme. Parce okay. que finalement, votre tête va s'enfoncer de façon naturelle dans l'oreiller et va garder cette position. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on a tendance parfois à mettre l'oreiller trop haut et avoir la tête trop pliée. Et résultat, vous allez avoir mal au cou. Si vous dormez sur le côté, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre trop haut votre oreiller non plus. Le mettre un peu plus bas au niveau de vos cervicales, puisque là, encore une fois, vous risquez de déformer votre colonne, et donc d'avoir mal au cou.
Bon, peut-être que la meilleure chose pour démarrer, c'est une bonne nuit de sommeil.
Et oui, vous aussi Mathieu, vous devenez un spécialiste santé de renommée. Alors, c'est vrai que c'est pas qu'une question de position. Le sommeil a un impact sur vos douleurs musculo-squelettiques. Pour ça, je vous parlais d'une étude très rapidement. 4000 personnes, hommes et femmes, qu'on a suivies. Certains n'avaient aucun problème de sommeil et d'autres avaient des problèmes de sommeil à type d'insomnie, de réveil précoce, de sommeil non réparateur. Eh bien, on s'est rendu compte que les personnes qui ont des problèmes de sommeil avaient aussi des problèmes musculo-squelettiques. Lorsque vous dormez la nuit, sereinement, normalement, vous allez avoir un relâchement musculaire. Sauf que si vous avez un sommeil fragmenté, vous n'allez pas avoir la période de récupération nécessaire. Et puis, il y a un cercle vicieux qui vient s'installer. Vous allez mal dormir, vous allez avoir des douleurs, et comme vous avez des douleurs, vous allez mal dormir, et ça ne s'arrête pas. D'autant plus qu'on sait que les personnes qui sont en manque de sommeil ont une perturbation du traitement de la douleur. Vous avez des douleurs exacerbées lorsque vous êtes en dette de sommeil. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour prendre soin de soi, être en bonne santé, eh bien ça commence par une bonne nuit de sommeil.
Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Et je vais tester moi la mémoire de forme, on verra. Jimmy Mohamed, 8h41. Notre planète tous les matins, c'est avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et vous vouliez ce matin, Fanny, revenir sur la décision des étudiants d'Oxford. Ils ont voté la semaine dernière, écoutez bien, la suppression de la viande dans les différentes cantines du campus.
Oui, et quasiment à l'unanimité, l'Union des étudiants d'Oxford, vous le savez, la prestigieuse université britannique, a voté la suppression de la viande de bœuf et d'agneau dans les menus des cantines du campus. Une demande forte de ce syndicat étudiant qui compte tout de même 22 000 membres. Et derrière cette volonté draconienne de supprimer ces deux types de viande, c'est évidemment une stratégie affichée qu'ont les étudiants pour lutter contre le changement climatique.
Mais vous nous dites que ce changement de régime dans les menus serait une fausse bonne idée.
Alors c'est vrai qu'il apparaît surprenant que les étudiants d'Oxford, au cerveau bien fait, soient dans une simplification du problème et dans une vision très étriquée de notre système alimentaire. On est d'accord, hein, dans l'idée, c'est bien, hein, il faut réduire notre consommation en viande, particulièrement dans la restauration collective. Notre consommation en viande qui a augmenté par 5, hein, enfin qui a été multipliée par 5 depuis les années 60. Il est tout à fait logique aujourd'hui de rétro-pédaler, mais bannir la viande rouge ou celle d'agneau dans les cantines pour s'orienter vers des protéines végétales non locales ou de la viande blanche, comme du poulet, qui est un animal granivore, c'est-à-dire un mangeur de grains, du grain qui fait souvent des milliers de kilomètres pour servir d'aliment aux volailles, implique un bilan carbone bien supérieur à un bœuf qui aurait été élevé localement.
Vous nous dites que nous gagnerions même à consommer de la viande rouge locale. Vous allez même jusqu'à dire que ce serait bon pour la planète, Fanny ?
Alors, ce qui prévaut, Mathieu,
je vous coupe tout de suite, je vais la garder vraiment, cette chronique. Hein. Je vais la garder, je vais la multidiffuser. Manger de la viande rouge serait bon pour la planète.
Ça serait bon pour la planète, je vais m'expliquer. Il faut s'intéresser à ce que mangent les animaux que nous mangeons. Et en partant de là, je peux même vraiment dire que l'élevage de bovins peut avoir un impact positif sur le climat. Tiens, prenez par exemple une vache qui dispose de plus d'un hectare d'herbe. Cette vache, elle ne va pas stresser, elle n'aura pas de troubles digestifs liés à une alimentation trop riche et déséquilibrée, comme l'ont bien souvent les vaches enfermées qui sont principalement alimentées avec des céréales. Et donc cette vache, tranquille, elle ne va pas dégazer au final beaucoup de méthane, un gaz 25 25 fois plus puissant en termes d'effet de serre que le dioxyde de carbone. Et en prime, une vache d'extérieur favorisera, en broutant la prairie, la séquestration du fameux CO2 contenu dans l'atmosphère. Et ce CO2 va être transféré dans le sol en très grande quantité, 0,7 tonnes par an et par hectare, car quand une vache broute, c'est automatique, elle active la repousse de l'herbe derrière elle, l'herbe qui utilise du carbone, on le sait, pour sa photosynthèse. Alors pour le dire plus simplement, l'élevage bovin dans de bonnes conditions et une consommation de viande rouge raisonnable, j'insiste sur ce point, contrairement au message envoyé par Oxford, peut aider à la lutte contre le changement climatique.
Et dans l'idée, on retiendra, au-delà de la blague, manger moins, mais manger mieux, de meilleure qualité. Fanny Agostini, merci beaucoup. Notre planète, tous les matins, sur Europe 1, 8h44. On les retrouve dans un instant, Nicolas Canteloup et Julie.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite à vous Mathieu Béliard pour l'actualité, petit rappel de l'actu.
Oui, bonjour Julie, bonjour à tous, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1, l'info du jour. C'est ce week-end où l'on a retrouvé un peu de liberté. Vous êtes nombreux à être allés, par exemple, chez le coiffeur. Moi, perso, j'ai pas eu le temps encore d'aller chez... J'ai pas encore le temps d'aller chez mon toiletteur.
T'es sûr ?
J'ai rendez-vous à 10h30 entre un canichenin et un lévrier afghan. Bon, je suis pas là pour parler de ma vie perso, encore une fois. L'info du jour, c'est la réouverture des commerces non essentiels. Où on se dit la vérité, oui, la vraie vérité, c'est quoi ? C'est qu'on a plus vu de queue, chère Julie, devant les boutiques de vêtements que devant les librairies. Ah. Oui, mais les Français, finalement, avaient vraiment besoin de lire, mais lire quoi ? Lire juste un ticket de caisse de chez H&M ou de chez Desigual, ça leur suffisait, franchement. L'autre info, c'est aujourd'hui qu'on annonce le gagnant du prix Goncourt. Aujourd'hui, le prix Goncourt va être annoncé. Et... Ah, mais du coup, ça y est, j'y suis. C'est pour ça que les Français, soi-disant en manque de livres, n'ont pas fait la queue devant les librairies ce week-end. C'est parce qu'ils attendaient le prix Goncourt. Et voilà, on peut peut-être y croire.
Oh, allez, pas de mauvais esprit. Merci Mathieu. La France est toujours sous le choc après le lynchage de Michel, ce producteur tabassé par la police. Bonjour Gérald Darmanin.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à Gérard, bonjour aux forces de l'ordre, aux policiers et policières qui nous écoutent et que j'embrasse. Oui, aujourd'hui je suis dans le pétrin, comme dirait ma grand-mère et M. Ribérou. Mais une fois de plus, je dois dire une chose, c'est que j'avais raison.
Raison de quoi ?
Mais il ne faut pas filmer les policiers. Dès qu'on filme des policiers, vous le constatez, on les voit qui tapent des gens. Et du coup, vous, les médias, vous gueulez. Si on n'avait pas filmé, tout ça ne serait pas arrivé, madame.
Bah si, ça serait arrivé quand même, malheureusement. Bah si.
Oui, peut-être, mais vous n'auriez pas vu. Et puis, vous auriez passé un bon week-end. Maintenant, à cause de ces images, vous avez peur de la police. C'est vraiment ballot.
Bah, c'est normal, enfin, elles sont effrayantes, ces images. Le président vous a demandé de lui faire des propositions pour rétablir le lien de confiance entre la police et les Français. Vous allez faire quoi ?
Eh bien, nous réfléchissons à une question importante. Les Français doivent appeler qui quand ils se font agresser par la police ? Ils ne peuvent pas appeler les policiers eux-mêmes, puisqu'ils ne répondront pas, puisqu'ils sont déjà occupés à leur taper dessus. Ce n'est pas une question évidente, j'en conviens.
Bah justement, Emmanuel Macron a demandé des propositions pour que ce genre d'affaires cesse. Qu'est-ce que vous avez à proposer ?
Écoutez, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les policiers n'auraient pas tabassé M. Zecler s'ils avaient eu les moyens pour lui mettre un coup de taser efficace et rapide, ou je dirais un baseball dans l'estomac. On a enlevé, il faut le dire à nos concitoyens, aux policiers, les moyens de commettre des bavures rapides, des bavures efficaces. Le résultat, on le voit aujourd'hui. Les policiers qui commettent une bavure sont obligés d'y passer un temps fou, qui est dommageable et pour la victime et pour la réputation de la police, puisqu'on le voit aujourd'hui. Donc je réclame plus d'armes et moins de procédures pour s'en servir. Des procédures en tout cas rapides. On ne pourra pas arrêter, soyons francs, franchement, on ne pourra pas arrêter les bavures. Donc autant les faire vite fait, bien fait.
Ah bah dites donc, on est rassurés. Merci Gérald Darmanin.
Mais je vous en prie.
Un mot maintenant de ce nouveau sondage. Qui pour la gauche en 2022 ? Eh bien, il y a de nombreuses surprises dans les résultats. Christiane Taubira arrive en tête, suivie d'Anne Hidalgo. Et Benoît Hamon arrive quatrième avec un très bon score. Bonjour Benoît Hamon.
Non, arrêtez, c'est pas drôle. C'est pas drôle, moi j'ai déjà fait le coup en 2017. Oui, vous m'avez fait le coup. Oui, vas-y Benoît, t'es l'espoir de la gauche. Et puis moi, nounouille, j'y ai cru, j'y vais. Je me banane et je me tape la honte. Non, vous m'aurez plus. Franchement, si je trouve le con qui me fait cette blague tous les 5 ans, c'est ma main dans la gueule.
Allez, calmez-vous. revanche, à la fin de ce classement, il y a un vrai rejet pour Ségolène Royal et François Hollande qui finit bon dernier.
Hey, ah bah, bonjour. Bah alors... Je suis resté dans vos locaux. Mmh. Pourquoi suis-je dernier dans votre classement ? Je n'ai rien fait, moi. Oui, pardon, Ségolène Royal, oui, je n'ai rien fait. Ben oui, c'est peut-être ça le problème, François, t'as rien foutu.
Anne Hidalgo nous rejoint maintenant, bonjour.
Ouais, bonjour.
Alors, vous êtes très bien classé, vous, hein, mais Christiane Taubira est quand même devant vous.
Oui, Christiane Taubira est devant moi, mais elle est dans les dom-toms.
Dans donc, les dom-toms.
Oui, donc dès qu'elle va revenir en métropole, elle va se faire tabasser par la police, Christiane. Donc je t'encourage à rester où tu es, dans les dom-toms.
Alors, dites-moi, si vous étiez élue présidente de la République, vous feriez quoi, madame Hidalgo ?
Eh bien, écoutez, chère Julie Leclerc, j'appliquerai à la France ce que j'ai fait pour Paris. Je fermerai très vite les voies rapides.
Bah, attendez, les voies rapides de France, c'est quoi ? Ce sont les autoroutes ?
Oui, tout à fait. Je vois, vous comprenez vite. Je fermerai les autoroutes pour en faire des grands couloirs de vélo où on pourra relier Paris à Marseille en moins d'un mois.
Mais enfin, personne va utiliser ça, enfin, soyez réaliste.
Mais ne soyez pas outrés. Pourquoi ? Vous croyez que des Parisiens utilisent mes pistes cyclables en ce moment ? Écoutez plutôt, monsieur Cabrol, il fait moins 12. Mais je m'en fous, les gens m'adorent. Je ne sais pas pourquoi, mais ils m'adorent. Il y a une forme d'hidalgomania.
C'est ça, oui. Allez, à bientôt. Emmanuel Macron est, paraît-il, dans une colère noire, hein, à la suite du tabassage de Michel Zecler, puis, après le rejet de la loi sur la sécurité globale. Monsieur le Président, bonjour.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Mauvaise séquence, là, hein, pour vous, en ce moment.
Écoutez, je suis furieux. Furieux ! Ce genre de conneries, c'était pas mon projet !
Alors, vous avez convoqué Gérald Darmanin immédiatement. Hein.
Je n'en peux plus, madame Julie, d'être entouré d'incapables. Vous savez quoi ? Je suis à deux doigts de le virer, Darmanin. Et puis, Picassex aussi. Il s'est mis dans la tête de réécrire l'article 24 sans en parler au Parlement. Et Didier Lallemand, le préfet de police, avec sa tête de fouine et sa casquette au Versailles. Non, mais on dirait un méchant général dans une BD de Spirou. Attendez. Non, là, j'en peux plus. Faut que je me défoule. Attendez, un instant. Bruno. Oui. Bruno, il est où, Bruno ? Bruno Le Maire. Bruno !
Oui, je suis là, monsieur le président.
Ah, merci. Tiens.
Bah. Mais pourquoi vous l'avez giflé ? Bah, il n'a rien à voir là-dedans.
Je sais, mais il a une tête à claque. Autant qu'elle sert, ça me défoule. Voilà. Merci Bruno, tu peux y aller.
Il n'y a pas de quoi, monsieur le président. Oui, je suis à votre service, toujours heureux de rendre service.
Ah bah, on vous sent contrarié, hein, Emmanuel Macron.
Un peu, Manveux, ils sont tous nuls. Non, ça, vous me laisseriez tout faire moi-même, on n'en serait pas là. Imaginez un pays où je fais tout. Un pays sans Premier ministre, sans préfet, sans, où personne ne m'emmerde, sans manif, sans journaliste, même sans Français. Voilà, ça, ce serait formidable.
Oui,
tout
sûr.
Seul dans un pays avec personne dedans, sauf des chefs d'entreprise à la limite. Voilà, ça, ce serait formidable, non ?
Eh bien, merci, Monsieur le Président. En tout cas, nous, on se sent aimés, hein, de vous. Le problème des violences policières, on le disait, empoisonne décidément Emmanuel Macron. Un problème qui a déjà coûté sa place à Christophe Castaner. Castaner, souvenez-vous, et qui met en grosse difficulté Gérald Darmanin.
Ah, et alors, on le regrette, le bon vieux temps de Gérard Collomb,
bonjour. C'est vrai que vous étiez le premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, vous. Hein.
Eh oui, ah là là, c'était le bon temps, le bon vieux temps. La population, vous vous en souvenez, la police vivait en harmonie à mon époque. Il n'y avait pas tous ces problèmes, on riait ensemble. Les agents de police offraient des sucettes aux gens lors des contrôles d'identité. Des caramels aux jeunes, des roux-doudous aux chenapans.
C'est ça, oui.
Lors des manifestations, les journalistes pouvaient filmer librement tout ce qu'ils voulaient. Les policiers prenaient la pose, se maquillaient, se coiffaient pour être beaux lorsqu'ils étaient filmés et passés à la télé.
N'exagérons rien. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place de Gérald Darmanin ?
Non, écoutez, je crois que c'est un vrai problème.
C'est une partition musicale, ce matin.
Pardon, hein, je suis un peu désaccordé. Oui, je pense qu'il faut repenser la formation des policiers. Leur remettre dans la tête qu'un coup de poing, ça fait très mal. Ça fait très mal, n'en doutons pas. Regardez, quand on vise, par exemple, la mâchoire. Attendez, monsieur Béliard, si vous permettez, parce que je pense que c'est important d'être pédagogue vis-à-vis de vos auditeurs. Monsieur Béliard, vous allez me servir de cobaye. Non, ne vous inquiétez pas, je vais modérer ma force. Bon, par exemple, le point part comme ça. Mes phalanges. Je crois que je me suis niqué les doigts. Excusez-moi d'être familier. Bon, attendez, je vous montre. Bon, ça fait mal. Attendez, je vais vous montrer plutôt un coup de pied, là, comme ça. Ce serait bien la régie qui est des bruits d'os différents pour qu'on voit la différence entre
le phalange et le genou.
Mais on ne peut pas demander la lune.
Bah
en tout cas, ça fait mal. L'auditeur
on a compris. Ouais.
Bravo Nicolas Canteloup et Julie. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Saluons Philippe Cavrivia, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas Canteloup. 8h56 sur Europe 1. Il est là, Philippe Vandel.
Mais oui.
Culture Média, la matinée continue. De 9h à 11h.
Bonjour Mathieu, notre info média du jour, c'est la soirée spéciale sur France 3 consacrée à la lutte contre le sida. Ils vont rediffuser ce magnifique film 120 battements par minute. Puis il y aura un débat présenté par Carole Gessler. On sera avec elle et également avec Fred Colby de l'association Aide. Au sommaire aussi, le retour des BFM Awards. C'est sur BFM Business, cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs de l'économie française. Cette année, dans un contexte de crise, je vous apprends rien, on sera avec le présentateur Christophe Jacubizine. Et vous connaissez la chanteuse Iseu? Chanteuse phénomène, elle a créé son propre
micro,
label.
Oui, très bien.
Elle vient de sortir un dernier album et si vous voulez voir ses clips, il faut donner son âge sur YouTube. Ça s'appelle Brut, elle sera avec nous. C'est vraiment Julie, oui.
Vous avez fait le jeu du coup ou...
Comment?
Vous avez fait le jeu du coup?
Bah j'ai mis mon âge mais ouais. J'ai un peu passé les 18 ans donc ça allait.
Philippe Vandel, Culture Média de 9h à 11h, c'est la matinée qui continue sur Europe 1. Pour ma part, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.